Nous sommes dimanche 23 juin et vous écoutez le 46e épisode Face B de Proxy Jeux.
Proxy Jeux, c'est le podcast qui vous présente des jeux de société sur table et sur écran.
Et Proxy Jeux, c'est aussi une application mobile sur iPhone et Android.
Merci à Ludic Bazar de nous aider à réaliser ce podcast. Ludicbazar.com, achetez un jeu, essayez-le et renvoyez-le s'il ne vous plaît pas. Salut les joueurs et salut les joueuses et, une fois encore, salut Jérémy.
Ah, salut Olivier, encore bon anniversaire.
Merci. Oui, mais là, on est toujours le 23 juin, c'est toujours mes 18 ans.
Toujours 18 ans.
Et puis là, on a ouvert le champ... Non, on a ouvert la bière.
La bière, mais c'est quand même la première bière qu'Olivier goûte, puisque aujourd'hui...
J'ai l'âge.
Il a enfin l'âge de goûter une bière. En fait, dans les autres épisodes, on vous écrase, mais il n'avait pas le droit.
C'est
ça. Il trempait juste les lèvres. Juste une petite gorgée, mais pas plus.
Voilà, et donc une phase B, présentation de jeux de société sur table, mais surtout sur écran.
Oui.
Alors, on va vous parler d'abord de quelques jeux. Alors, des jeux qui sont des petits jeux.
Oui, c'est des jeux qu'on a déjà parlé. C'est pas des gros formats cette fois-ci.
La Boca, la Tour Enchantée, et puis il y a un auditeur qui nous a parlé de Mukapazza, et donc on va en parler très brièvement. On a notre envoyé spécial Fendwell qui est parti au CNJ, le CNJ a organisé une présentation avec Repoprod du nouveau jeu de Bruno Feduti Mascara, donc il est allé recueillir quelques mots de Bruno. Et surtout, après vous avoir très brièvement parlé des jeux qu'on va emmener cet été, on va vous parler des écrans et de Agricola. Voilà. Vous attendez ça avec impatience. Vous attendiez ça avec impatience. Bah, attendez encore un petit peu.
J'imagine que vous l'avez déjà acheté depuis que vous ne pouviez plus.
Oui. Bah, on espère que c'est déjà sur votre tablette. On commence avec quelques petits jeux sur table.
Allez, bah oui. Tu vas s'ouvrir le bal.
Alors, oui. On a parlé du Spiel des Jahres. Il y a deux numéros, je crois. En vous annonçant les nominés. Et la particularité de ce prix, c'est que en fait, ils annoncent le primé au Kinderspiel des Jahres, le jeu pour les enfants, avant le jeu de l'année ou le jeu de l'année pour les connaisseurs. Et le Kinderspiel des Jahres cette année, c'est la Tour Enchantée.
C'est trop fort, on vous donne une news dans la phase B maintenant.
Oui, c'est ça.
Et donc, Olivier, tu y as joué?
Oui, de façon complètement impromptue, en fait. Inattendue, je veux dire.
Olivier a beau avoir 18 ans. C'est quand même... Il a déjà un jeune testeur sous son toit.
C'est ça. En fait, je vais balancer. C'est Thomas Détrin qui est acheteur pour la Triche, le barrageux de Lyon, qui a rentré pas mal de choses. Et puis, il a rentré la Boca, il a rentré aussi la Tour Enchantée. Donc je suis allé chez lui en me disant je vais faire une vraie partie d'un vrai jeu et on s'est retrouvé à boire de la bière et à jouer à la Tour Enchantée.
Ah mais je croyais que t'as joué avec ton gamin moi.
Ah non. non.
Ah ouais d'accord. Ouais, bah en fait c'est-à-dire que la fois d'avant quand vous avez joué à Keyflower il a vu le niveau donc il a sorti un jeu au niveau. Quoi.
Non mais c'est ça c'est non mais c'est la même soirée on a chanté. On a joué à la Tour Enchantée ensuite on a joué à Keyflower et après il m'a montré un petit peu la Boca.
D'accord bon ça me rassure quand même.
Donc La Tour Enchantée, c'est un jeu pour 2 à 4 joueurs, 5 ans et plus, et pour 20 minutes. Alors, la particularité de ce jeu, c'est un jeu coopératif, ou pas. C'est un jeu de mémoire, ou pas.
Et c'est un jeu ou pas
ou pas.
Ou c'est vraiment un jeu.
Alors, est-ce que c'est un jeu coopératif? En fait, il y a le pitch, c'est que la princesse, elle est dans la tour, elle est enfermée, et l'idée, c'est que c'est une course entre le sorcier... qui veut récupérer la princesse, ou Robin, un petit garçon qui veut aussi délivrer la princesse. Et l'idée, c'est qu'on va être, on doit être le premier à trouver la clé de la tour. Est-ce que tu connais ce jeu où on a un pirate, et on lui enfonce, un pirate qui est dans un tonneau, on enfonce des épées dans le tonneau jusqu'à ce qu'il saute.
Oui.
Et ben là, le concept est le même, c'est-à-dire qu'il y a 6 verrous à la tour et la clé pousse en fait sur un des verrous qui va déverrouiller qui va faire sauter la princesse, qui va la libérer. En l'occurrence, pourquoi est-ce que c'est un jeu de mémoire? Parce que le joueur qui va prendre le rôle du sorcier va cacher une petite clé dans un des trous du plateau. Alors c'est comme à son habitude, Drive My Gear fait des choses un petit peu particulières. Il y a une tour justement avec ce mécanisme de la petite figurine qui va s'envoler quand on va mettre la clé dans la bonne serrure. Et puis, le plateau, alors je ne sais plus combien il y a de trous. Bah, il y a 16 tuiles, donc il y a 16 emplacements où on peut cacher la clé. Comme à l'habitude de Drive My Gear, là, on aura un plateau qui va s'enlever. On va mettre la clé dans un des trous. On va reposer le plateau.
Après,
il y a un petit peu de construction, machin. On va mettre des tuiles pour cacher l'ensemble des trous. Il y a une tuile sur lequel le sorcier ou Robin va se déplacer et sur lequel on va entendre un petit clic et c'est la clé. C'est le sorcier qui cache la clé, c'est Robin et après c'est une course. Et Robin a une longueur d'avance parce que le sorcier va avancer de 8 cases avant de monter dans la boîte, avant de monter sur la piste principale. Donc c'est lui qui le cache, il sait où est-ce qu'est la clé. Mais l'avance que prend Robin peut être intéressante. Tu peux cacher la clé soit sur le début du parcours, soit sur un côté. En fonction de ce que tu auras fait le tour précédent, il y a un petit double guessing en disant « Je l'ai mis à droite, cette fois je vais la mettre à gauche. » Et là tu dis « Oh là, il va peut-être... Il se dirige à gauche. Est-ce que je le suis? Est-ce que j'essaie d'aller plus vite à l'endroit où il aurait peut-être caché la clé? Est-ce qu'il est en train de me bluffer ?» Et en l'occurrence, en fait, tu as 2 dés. Un qui indique qui de Robin ou du sorcier va jouer en premier, et un qui dit combien Robin et le sorcier vont faire de mouvements. Donc c'est très aléatoire, c'est très double guessing, c'est très. J'ai pas été convaincu.
Parce que le principe avec la clé, en fait, c'est anecdotique.
Non, c'est pas ça.
Quand t'as la clé, après, tu peux essayer les emplacements.
Bah, t'essayes un des 6 emplacements. Au début. Le sorcier, il a la chance. Enfin, t'as 16 emplacements sur lesquels tu dois te déplacer pour être sûr d'avoir la clé. Tu peux y tomber par hasard, mais si t'as pas de chance, il faut que tu fasses 16 cases pour au moins. Enfin, c'est plus que 16 cases parce qu'en fait, t'as les cases sur lesquelles se trouvent les trous et éventuellement et t'as des carrefours. En l'occurrence, t'as quand même un long parcours à faire pour visiter tout le plateau. Plus tu vas avoir d'essais sur la tour, plus ça va être facile, plus la probabilité de trouver la bonne serrure pour délivrer la princesse va être importante. Mais, et plus, en contrepartie, plus la clé sera facile à trouver. Parce qu'une fois que tu as trouvé la clé sur une des tuiles, bah tu la retournes. Donc en fait, tu sais que tu ne vas pas cacher la tuile deux fois au même emplacement. Donc c'est l'acuité de chez Drive My Gear. Alors nous on a eu un problème parce que là on a fait une longue partie où en fait la clé on a tourné comme ça et en fin de compte ça n'a jamais libéré la princesse. Oui ça n'a pas marché en fait.
Mais juste une fois où.
Bah on n'a pas fait 50 parties si tu veux donc.
T'es comme vous avez pas essayé pour voir si c'était pas un problème.
Si non après ça marche mais si tu veux déjà tu mets en cause un petit peu le mécanisme qui peut se gripper et c'est un peu con parce que t'as joué même 10 ou 15 minutes et ça marche pas quoi.
Après pirate ça marchait à tous les coups.
Ça marchait.
Mais il y avait que 2 emplacements pour tout machin donc c'était un peu nul.
Non mais là il y en a qu'un seul.
Oui mais il change.
Non. Ah tu tournes le truc et tout. Si tu veux, t'as un des côtés de l'hexagone qui va fonctionner, qui va libérer la princesse. Donc tu fais tourner ton hexagone et puis c'est tout quoi. J'étais assez déçu. C'est vrai que t'as un côté. Alors j'ai pas 5 ans donc il faudrait.
Ouais, ça me semble. Pour moi, ça me semble pour un enfant, c'est pas mal. Après, effectivement, est-ce que l'adulte aura du plaisir à...
Et après, c'est la partie coopérative. Comme quoi coopératif? Enfin, je veux dire, en fait,
si, si tu joues, parce que là vous avez joué en 1 contre 1, mais si tu joues à 2 ou 3 joueurs.
Ah, c'est super.
Non, c'est ça.
En fait, chacun à son tour
déplace Robin. Ah ouais,
va déplacer Robin.
Ouais, ah bon, ouais. D'accord.
C'est un peu là.
Écoute, en France, on a eu Tino Topini qui a été l'As d'or pour les enfants. C'est pas non plus exceptionnel. Voilà, c'est pas une année.
Non, c'est pas mauvais. Hein. C'est super sympa. Non, quand on passe sur le.
Il y a l'immersion au niveau. Enfin, ça colle avec le thème et tout.
Il y a eu des moments rigolos où, en fin de compte, on essaie de chercher, moi partir à droite alors que je devais aller à gauche, il y a un petit peu de bluff quoi, mais ça va pas très bien.
Autant jouer à Fantôme, ça joue en 5 minutes.
Tout à fait. La Tour Enchantée, c'est un jeu de mémoire et coopération apparu chez Gigamic pour 2 à 4 joueurs à partir de 5 ans, 20 minutes, de Inka et Marcus Brandt.
Encore ?
Oui, avec Rolf Vogt qui a fait des illustrations, qu'on connaît très bien chez Drive My Gear, celui qui a fait, le labyrinthe magique, les escaliers enchantés et tout ça.
Et c'est 40 euros quand même environ.
Essayez-le. Enfin, si vous avez des enfants qui sont petits, peut-être. Mais dès que vos enfants ont 6-7 ans, ça n'a plus beaucoup d'intérêt. Et puis, un autre nominé au Spiel des Jahres cette année, c'était C'était
Mukapazza,
un jeu basé sur des puzzles en trois parties reconstituées. Donc les pieds, le corps, la tête. Et puis des tuiles parties des animaux sont mélangées, placées sur les rangées, une pour les pieds, une pour le corps, une pour la tête. Et puis le joueur va piocher une carte animale. Il va une carte animale et il doit reconstituer en fait l'animal avec le pied, la tête et le corps.
On mettra un visuel du plateau de jeu, c'est beaucoup plus,
oui,
ça sera plus simple.
Donc merci à Kylian qui nous a fait un petit débrief sur le site. Il dit que en pratique les adultes s'ennuient. Alors ça c'est un tout petit peu embêtant. J'ai trouvé que dans la Forêt Enchantée c'était moyen, ça pouvait être. Mais alors si les parents s'ennuient, ça veut dire que ils le sentiront pas forcément. Et l'enfant, pour l'enfant, le plus compliqué, ce sera de compter les poussées. Parce que en fait, le joueur pioche une carte animale et doit le reconstituer avec trois poussées. Je ne sais pas de quoi il s'agit, mais voilà.
C'est un peu comme dans Labyrinthe.
Trois et trois. Tu as trois possibilités pour. T'as trois coups en fait pour reconstituer ton animal. En une partie, son enfant avait maîtrisé l'optimisation des poussées et en fin de compte, ils avaient fait des égalités. Et en fin de compte, c'était pas très intéressant. Un jeu très beau, même si, dit-il, on a du mal à comprendre le thème mixte animaux-espace. Mukapazza, c'est un jeu pour 2 à 4 joueurs à partir de 4 ans, pour une durée de 15 minutes, méli-mélo des animaux. Et vous nous dites que c'est pas très intéressant.
C'est un jeu de Iris Rosbach, quand même. Paru chez Zor en allemand et chez Gigamic bientôt en français.
Donc il y a tout un tas de jeux. Alors pour vos enfants qui ont 4 ans, si vous ne savez pas quoi leur faire jouer, il y a Pique-Plume. C'est un jeu de mémoire, ça dure 10 minutes, un quart d'heure. C'est très intéressant, c'est très prenant. Il y a énormément de jeux qui sont
Il y a plein de meilleurs choix.
Intéressants.
L'escalier hanté.
Oui, ça peut être pour un peu plus vieux.
Peut-être 5 ans, peut-être 5 ans.
Néanmoins, n'hésitez pas à faire jouer vos enfants, mais pas forcément à Mukapazza. On parlait tout à l'heure de La Forêt Enchantée, Inca et Marcus Brandt. Ils ont clairement le vent en poupe, ils font plein de choses, ils ont fait Mytho.
Oh là là, c'est leurs enfants.
Ouais. Donc les Brandt ont fait Mytho.
Voilà.
Les parents ont fait Descendance, Le Village. Ils ont fait la Boca aussi.
Ils font plein de jeux en ce moment. Et surtout, des jeux vraiment toujours différents, quoi. Et donc, la Boca. Alors, la Boca, vous en avez déjà parlé dans une news. On en a parlé plusieurs fois. C'est un jeu qui va se jouer en équipe. À deux, en tout cas. En équipe de deux. Où il va falloir reconstruire. Alors, la Boca, c'est un quartier de. Je ne sais plus quelle ville d'Amérique latine. Est-ce que c'est Buenos Aires?
Je vais te le dire.
Voilà. Tu nous auras météo en même temps.
Oui, tout à fait.
Donc un quartier très très coloré et donc les joueurs en fait vont avoir pour objectif de reconstituer c'est avec des pavés en bois qui peuvent faire une case, deux cases, trois cases de long, tous de couleurs différentes. Et en fait les joueurs sont assis face à face et ils vont devoir placer ces cubes en bois sur le plateau de manière à reconstituer un paysage, enfin on va dire un décor.
Un
décor qui est appuyé sur la carte, sauf que les joueurs ne voient pas, doivent le mettre tel que eux doivent le voir de leur côté.
Alors, pour vous aider à imaginer, en fait, La Boca, c'est un quartier de Buenos Aires, en Argentine, et on y trouve des maisons qui sont bariolées avec des parties vertes, jaunes, rouges, bleues. Et donc, quand on regarde en fait les maisons, on a des assemblages et on voit des cubes de couleurs qui sont qui forment une sorte de
patchwork.
Et là, on doit refaire ce patchwork avec des contraintes qui sont des cubes ou des rectangles ou des L en bois.
En un temps minimum.
Limité.
Parce qu'en fait, donc les joueurs vont devoir communiquer entre eux parce que, par exemple, moi, je dois voir le jaune, il est haut sur trois étages, mais par exemple, moi, je dois peut-être le voir que de 1 en haut, alors que mon adversaire, lui, doit le voir dans la globalité.
Ouais, c'est ça.
Donc, il va falloir synchroniser un petit peu. C'est pas forcément simple. Il y a un temps limité, c'est-à-dire qu'au bout de 2 minutes, si on n'a pas trouvé la solution, on va devoir passer. Le principe, c'est qu'en fait, en fonction du temps, si j'ai mis, par exemple, moins de 10 secondes, je vais marquer 10 points. Par contre, si j'ai mis 1 minute, je vais marquer plus que 2 ou 3 points, je vais marquer beaucoup moins. Et l'autre particularité, c'est que comme on peut jouer aussi avec des enfants, il y a deux niveaux de difficulté. Il y a des cartes faciles et puis il y a des cartes plus difficiles. Alors les cartes faciles pour des adultes, ça va vraiment, on va vraiment, enfin quand je dis on a un maximum de 2 minutes, on va jamais y arriver quoi. Même les enfants n'arriveront jamais aux 2 minutes fatidiques. Enfin les enfants en âge déjà, le jeu est marqué à partir de 8 ans et il faut cet âge-là à peu près, je pense. Hein.
Ouais, mais tu parles de la pièce rouge là ou pas?
Ouais, c'est-à-dire qu'après dans le mode difficile en fait pour les adultes, il y a la pièce, il y a une pièce rouge qui est une forme en L, qui elle par contre va vraiment compliquer les puzzles. Enfin le challenge va être beaucoup plus élevé. Et là, par contre, on peut dépasser malheureusement les 2 minutes fatidiques. Mmh. Et il y a des fois, ouais, on a passé 2 minutes, puis on continue à chercher parce qu'on se dit quand même, c'est pas possible. Comment il faut le mettre. Le principe du jeu, sinon, c'est comme quiproquo, c'est-à-dire qu'en fait, on va jouer en équipe avec une fois au moins chacun des autres joueurs qu'il y a autour de la table. Et ça c'est sympa parce que bah du coup on peut pas dire, enfin on crée pas des équipes, voilà les équipes tournent, on s'ennuie pas parce que quand c'est pas nous qui jouons c'est pas grave, c'est rapide, sauf le fameux cas des 2 minutes tard, mais si on joue avec des enfants on n'est pas dans ces formats là et des fois on va aider un petit peu, hein. Par contre on va bien vérifier que les joueurs se sont pas trompés. Si normalement on dit c'est bon et on arrête le chrono, on regarde et s'ils se sont trompés normalement les points sont pas marqués du tout. Du coup, forcément. Bon, nous, on autorise dans ce cas-là, on met le chrono en route et puis on refinalise. Forcément, c'est pour avec les enfants. Voilà, il faut savoir que le chrono, il est fourni.
Ouais, c'est pas mal. Et il est pas mal. C'est un truc où tu peux faire du rebours.
Oui.
Où tu peux fixer un temps et puis tu peux faire du rebours. Je sais pas combien de temps ça peut durer, mais.
Voilà, vous avez pas besoin d'acheter un cube. Un digital un cube, là, vous avez. Il y a déjà le timer qui est fourni. L'inconvénient par contre du jeu, c'est que ça tient dans la boîte et qu'il faut la boîte pour jouer, pour mettre les cartes, pour cacher en fait, pour mettre la carte debout entre les joueurs. Disons que la boîte est bien pensée pour ranger les jetons, etc. Mm-hmm. Et donc du coup, par contre, c'est un jeu que je n'emmènerai pas en vacances parce qu'emmener une grosse boîte carrée comme ça pour, c'est dommage parce que par contre le jeu, il est super prenant. Alors déjà visuellement, il est beau. C'est un jeu Cosmos, mais
oui.
il est beau.
Oui, oui.
On a envie de les manipuler tout de suite, là, ces cubes, ces gros bois, c'est une couleur vive. Et avec les enfants, on a fait la première partie, il faut compter 20-30 minutes. On n'a qu'une envie, c'est d'en refaire une. Quoi. On finit et voilà. Donc quand le jeu est arrivé à la maison, on a tourné pendant plusieurs soirs avec la Boca. Mmh. C'est vraiment très bien. Et c'est un jeu en 3D, il n'y en a plus beaucoup qui se font. En fait, il y a les jeux 3D, c'est rare et en général, ils sont bons. Du coup, il y avait eu Pueblo qui est sorti il y a une bonne dizaine d'années.
Ouais.
Pueblo, c'était top aussi, vraiment différent, un jeu subtil. J'espère qu'un jour il reviendra. Et puis il y avait eu Roomies qui est devenu ensuite le Blocus 3D. Lui aussi très intéressant. La Boca est différent puisqu'il y a ce côté un peu coopératif, mais on retrouve pareil cet aspect. Il faut que je cache des pièces, je mets des pièces devant les autres pour les cacher, un peu comme on a dans Pueblo et Romis. Et ça, c'est très, c'est ce qui rend le jeu d'ailleurs aussi intéressant. Je peux que le recommander. Par contre, il est trouvable pour l'instant en import parce qu'il est allemand, mais je sais que en français, c'est Philosophia qui le prépare. Donc sans doute d'ici la rentrée. Voilà. Désolé, à Proxy Jeux, on ne peut pas s'empêcher de choper les nouveautés quand elles passent et d'en parler tout de suite tellement on est emballé.
Non, mais en fait, ça se trouve quand même. Après, c'est en apport. Et c'est en apport et des fois, c'est alors pas moins cher, mais pas plus cher de trouver un jeu en apport plutôt que...
Voilà, c'est ça. Et sachez que la règle, la règle elle est en allemand, mais vous pouvez la trouver déjà minima en anglais... Et puis sans doute
sur BGG.
Sur BGG, et elle est peut-être déjà traduite en français. Elle est simple, là, donc c'est pas. Après, pour jouer, il n'y a plus besoin que ce soit de l'import ou pas, on ne voit pas la différence. Hein. Les chiffres, c'est les mêmes, les cubes aussi. Il n'y a pas de texte. Quoi. Donc, La Boca, c'est un jeu de Inka et Marcus Brandt pour 3 à 6 joueurs à partir de 8 ans. Pour 30 minutes à facilement 1 heure peut-être à 6 joueurs, mais je le recommande peut-être pas ce format 4, c'est bien. Alors en import pour 35€, 35-40€ à peu près.
Une petite flash météo de La Boca en Argentine.
Oui.
C'est l'hiver.
Forcément.
Donc il n'y a pas de nuages, un grand beau temps. Par contre, demain il va faire 7 degrés, 6-7 degrés le matin et au plus fort de la journée il fera 14 degrés.
Ah oui, c'est l'hiver.
Donc
quoi.
Un peu frais.
Bon,
c'est
pareil que chez nous en
après,
fait.
C'est
hein.
Buenos Aires.
Mais nous, c'est l'été. Hein.
Oui, c'est ça. Et pas de pluie, un peu de vent, 20-30 km/h et surtout un grand beau temps. Donc achetez La Boca. Et ce soir, enfin et aujourd'hui, enfin quand vous écouterez ce numéro de Proxy Jeux, on va vous proposer quelque chose d'un petit peu inhabituel. Nous avons été invités à une soirée mascarade par Repose Prod et le CNJ, le Centre National du Jeu de Boulogne. Mascarade, c'est le nouveau jeu de Bruno Feduti qui est édité par Repose Productions. Ils ont fait une petite soirée pour présenter ce jeu avec moult bières et beaucoup de...
Non, il y avait surtout des bières. Hein.
Surtout, je ne sais pas. Mais en plus, Fenwell, il n'a jamais dit... Je lui ai dit, dis-moi si la bière est bonne. Et voilà.
Mais s'il n'a pas dit si qu'elle n'était pas bonne.
Non, je pense qu'il n'a pas bu
donc,
de bière.
Je sais que Cédric Comont nous écoute par moment. Il va falloir travailler ça. Oui. Et puis, il va falloir faire à Lyon.
Non. Je suis persuadé que...
que la bière était bonne.
Les Belges de Sombrero, ils savent recevoir et que... Il ne veut justement pas te dire... Oui, c'était super bien, parce que sinon, il sait que tu vas y aller à sa place.
Ah, en fait, il est resté au bar.
Bref, Fenwell a essayé Mascarade. Ils nous ont dit quelques mots. Donc d'abord, je vais vous laisser écouter une petite présentation de la soirée et du CNJ par Fenwell, et puis on en reparle tout de suite après.
Mascarade est un jeu de Bruno Feduti, édité chez Repos Prod. Il est jouable de 2 à 13 joueurs, pour une durée de 30 minutes environ. Le jeu est constitué de cartes et de pièces de monnaie. Le but du jeu sera, pour tous les joueurs, donc d'accumuler jusqu'à avoir 13 sous. Et le premier qui arrive à 13 sous sera le gagnant de la partie. Au début de la partie, tous les joueurs se voient attribuer un rôle face visible, donc une carte face visible. Et chaque carte va avoir des pouvoirs différents. Chaque carte est unique à une exception près. Puis chaque joueur pose la carte face cachée devant lui et on peut commencer à jouer. Alors à tour de rôle, les joueurs pourront choisir de faire une action parmi trois. La première action va être de prendre connaissance de la carte qui se trouve devant eux. La deuxième action va être de désigner un joueur, de prendre la carte de ce joueur et de faire mine de d'échanger cette carte avec la leur sous la table. Ils peuvent l'échanger effectivement ou ne pas l'échanger avec ce joueur, puis ils rendront la carte face cachée à ce joueur. Évidemment, à aucun moment ils ne regarderont ni leur carte ni la carte de l'autre joueur. Enfin, la troisième action va être celle de déclarer un rôle. Donc en fait, par exemple, je dis que je suis l'évêque. Et on demande aux autres joueurs si quelqu'un conteste le fait que je sois l'évêque. Si personne ne conteste, alors je vais faire le rôle de l'évêque. L'évêque vole 2 pièces aux plus riches, et donc je vais choisir parmi les plus riches à qui je vole 2 pièces. S'il y a une contestation, eh bien tous les joueurs qui contestent ont le droit de vont en fait retourner ma carte et vont également retourner leur propre carte pour voir si c'est bien moi qui ai l'évêque, ou alors si c'est bien eux qui ont l'évêque. Alors si effectivement c'est eux qui ont l'évêque, ils ont le droit de faire l'action de l'évêque gratuitement, directement. Si c'est bien moi qui ai l'évêque, et bien dans ce cas-là, ils doivent payer au tribunal une pièce de monnaie. Mascarade est donc un jeu avec identité secrète, qui seront ou pas dévoilées de temps en temps durant la partie. On va changer facilement d'identité, donc c'est l'une des actions du jeu. Il va être important de savoir à chaque fois quel est le personnage que l'on a devant soi et également les personnages des autres, mais surtout que les autres ne sachent pas votre propre personnage. Donc c'est chaotique, c'est fun, on s'amuse vraiment bien. C'est pour 2 à 13 joueurs, mais c'est plutôt compter quand même 8 joueurs, hein, on va dire. À partir de 8 joueurs, c'est très sympathique. Les parties peuvent durer vraiment être assez courtes. J'ai vraiment eu au minimum 5 minutes, et puis sinon une demi-heure, oui, tranquillement, une bonne demi-heure de jeu. Voilà, donc c'était Mascarade de Bruno Feduti, édité chez Repoprod.
Alors, beaucoup plus sérieusement, je voulais vous parler en 2-3 mots du CNJ, nos amis auditeurs qui sont en banlieue parisienne, qui n'ont jamais mis les pieds au CNJ, qui ne connaissent pas la ludothèque de Boulogne. Alors, c'est avant tout une ludothèque qui détient le fameux nom de maître ludothèque.com, donc ça pète. Une ludothèque, c'est également un conservatoire du jeu en tant que patrimoine culturel.
D'ailleurs, CNJ, c'est-à-dire Conservatoire National du Jeu. Ou
bah, moi, je disais toujours centre national du jeu, mais le centre national du jeu, c'est ça, propose chaque saison deux cycles thématiques. Le premier, c'est Pion and Click de février à juin 2013. De jeux de société aux jeux vidéo. Et après, de septembre 2012 à janvier 2013, ça c'était pour l'année dernière, une histoire d'ambiance, des salons littéraires aux party games d'aujourd'hui, donc des expositions variées. Le concours des créateurs de jeux de Boulogne-Billancourt, on vous en a parlé, on vous en parle tous les ans avec.
Attends, c'est pas l'Europa Ludis.
Voilà, des prototypes et puis les shortlists et puis la nomination des finalistes. C'est aussi un observatoire du jeu de société. Il a pour but d'analyser et d'élaborer un panorama exhaustif du secteur du jeu de société, profil des acteurs, données économiques, sociologiques et l'univers du jeu. Et ils ont mis en place.
C'est la partie la moins. C'est un peu le... trop ouais. Sérieuse, on va dire presque, de tout ça, quoi.
Ouais, ouais, mais là, ils ont commencé, ils ont mis en place des biographies. Ils ont commencé par Bruno Catala. Et ils ont justement. La deuxième biographie, c'est celle de Bruno Fedutti.
C'est français, quoi.
Oui, 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 bien sûr. Ah. Je pense que c'est.
On peut avoir Alex Randolph, Steve Jackson.
Ouais, mais, oui, mais attends, pourquoi aller chercher des gens qui sont morts et qui sont étrangers alors qu'on a des gens qui sont vivants et.
Je ne répondrai pas à la question.
Bon, je réponds pas. Allez, on va passer tout de suite à l'interview de Bruno Fedutti. On vous laisse écouter ça et puis on en parle encore juste après.
Je suis avec donc Bruno Fedutti et bonjour Bruno.
Bonjour.
Actuellement, vous sortez un nouveau jeu donc chez Repoprod qui s'appelle Mascarade. C'est bien ça ?
C'est ça.
J'aurais voulu savoir déjà, peut-être pour les personnes qui ne vous connaîtraient pas, qui êtes-vous ?
Qui je suis ? Je suis un auteur de jeux depuis pas mal de temps, hein, on va dire un vieux de la vieille, qui a publié pas mal de jeux depuis les années 80. Les plus connus, c'est des jeux comme Citadel, Mystère à l'Abbaye, La Vallée des Mammouths. Plus récemment, des jeux comme Speed Dating ou Le Roi des Nains. Et donc, Mascarade, qui arrive normalement en boutique la semaine prochaine.
Donc, Mascarade, c'est un jeu de bluff, un type de jeu qui est particulièrement à la mode actuellement, les petits jeux de bluff à base de cartes. Peut-être comme on peut citer Coup et également Love Letter. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du cheminement qui vous a amené à créer ce jeu ?
Alors, c'est assez amusant, enfin, notamment la relation avec Coup et Love Letter, parce que visiblement, les trois jeux ont été conçus à peu près simultanément. Et je pense que ça veut dire que quelque part, l'idée était dans l'air. Mmh. Hein, l'idée de faire un jeu où on est juste une carte ou deux cartes par joueur, et puis c'est tout.
Si je peux me permettre, moi je viens de faire une partie de Mascarade, même plusieurs parties, et même si le concept de base, l'idée d'avoir une seule carte devant soi est le même, le jeu est complètement différent, enfin il y a vraiment des...
Ah oui, mais les jeux ne sont pas les mêmes, mais ils sont partis effectivement un petit peu de la même idée, je pense, de la même intention. Bon, je ne suis pas dans la tête des auteurs de Love Letter et de Coup, mais j'imagine... qui sont aussi partis de cette envie de faire un jeu un peu minimaliste, parce que je pense qu'il y a une espèce de mode d'un certain minimalisme. On a eu trop de jeux énormes, monstrueux, on a eu trop une tendance à rajouter des couches de règles, des couches de matériel, hein, des mécanismes supplémentaires, et finalement on a l'impression de jouer... parfois plus contre les règles que contre les joueurs. Et donc, je pense qu'on a pas plusieurs auteurs. Je pense que les auteurs de Coup, de Love Letter et moi-même, on a sans doute tous eu un petit peu la même idée de dire s'il y a très peu de cartes, s'il y a très peu d'éléments, on peut plus cacher les joueurs derrière les règles. On se retrouve à jouer avec des joueurs. Et on se retrouve dans des jeux très psychologiques. Et voilà, à partir de là, il est évident que nous ne sommes pas les mêmes et qu'on n'a pas fait exactement les mêmes jeux. Je pense que les trois jeux sont effectivement réellement différents, mais quand on les regarde, je dirais, de loin, comme ça, effectivement, on s'aperçoit bien qu'il y a une famille, il y a un esprit commun. Même si après, quand on joue, c'est pas la même chose. Love Letter, c'est plus un jeu pour des joueurs peu nombreux J'avoue, j'aime beaucoup et je trouve ça très très amusant avec un bluff très vicieux. Coup, c'est sans doute plus stratégique, on peut préparer des trucs sur plusieurs coups à l'avance, etc. Ce qu'on ne peut pas trop faire ni dans Love Letter ni dans Mascarade. J'avoue que je suis moins fan de coups. Et bon, Mascarade, il y a le côté un peu plus... un tout petit peu de mémoire et puis un bluff un peu plus vicieux dans l'échange sous la table. Mais on est dans des jeux différents, enfin très différents quand on y joue, mais effectivement un petit peu de la même famille.
Est-ce que vous pouvez peut-être nous raconter peut-être la genèse de ce jeu? Je veux dire, comment s'est passée l'édition avec RepoProd?
Alors, c'est assez, la manière de travailler de RepoProd est assez particulière. Bon, donc moi j'avais le jeu que j'avais conçu et testé avec des amis qui fonctionnait bien. Dans Keg, il devait y avoir 7 ou 8 personnages seulement. On pouvait jouer à plus, mais on avait des personnages, enfin des cartes sans effet particulier, dont il fallait se débarrasser. Et le jeu a beaucoup plu, et en fait, à quelques jours d'intervalle, il y a les gens de RepoProd qui m'ont dit qu'ils voulaient le publier, et puis Philippe Despalières, 2 jours plus tard, j'ai dit « Ah bah désolé, j'ai dit oui à RepoProd ». Donc, c'est parti avec RepoProd, et ils ont une manière de travailler donc assez particulière. C'est-à-dire qu'en gros, je suis allé chez eux à Bruxelles un week-end, et on a passé un week-end ensemble à tester le jeu de manière intensive, et ils ont vraiment fait un travail de développement qui est impressionnant. C'est-à-dire que moi, le jeu que je leur ai livré, il y avait, je crois, 8 personnages. Là, maintenant, il y a 13 personnages différents. On en a même quelques-uns en réserve. Il y a un certain nombre de personnages qu'ils ont imaginés, qu'ils ont testés entre eux. Bon, après, qu'ils m'ont soumis, on en a discuté, j'ai fait mes petites modifications. Enfin, bon, on a un petit peu tout réglé. Mais c'est vrai d'une certaine manière, je pense que toute l'équipe de RepoProd sont un peu aussi les auteurs de Mascarade, parce qu'ils ont vraiment ajouté des éléments au jeu. Bon, là, j'ai pas la liste des personnages sous les yeux, mais j'aurais la liste des personnages, je pourrais vous dire, bon, ben, celui-là, c'est moi. Ah, celui-là, c'est les gens de RepoProd, celui-là, c'est les gens de RepoProd qui vont imaginer, quoi.
Est-ce que vous aviez imaginé à peu près le même univers? Le jeu a toujours eu ce nom-là ou...
Alors oui, le jeu a eu ce nom-là dès le départ. Enfin, les toutes premières versions du jeu, ça s'appelait Le chat de Schrödinger, mais c'était, ouais, c'était très différent. Voilà. Après, très rapidement, je suis passé sur ce thème-là. C'est vrai que j'en discutais tout à l'heure avec des amis. On se disait, ça pourrait très bien être un thème de type mafia, par exemple. Ça marcherait très bien. Mais c'est vrai que moi, je suis parti sur un univers médiéval. Et ils l'ont adopté comme ça, sans vraiment se poser de questions, parce que ça courait bien.
Ce que je vous propose aussi, c'est de nous dire si vous avez donc d'autres jeux de prévus, peut-être chez d'autres éditeurs, pour cette année ou pour l'année prochaine.
Alors, je ne sais pas très bien ce dont j'ai le droit de parler, mais...
Une exclue.
Non. bon, là, très bientôt, il y a Formula E qui doit sortir, donc oui. Un jeu de course d'éléphants que j'ai fait avec des amis brésiliens. Il doit y avoir, si on arrive à se mettre d'accord sur l'évolution des règles, parce qu'on n'est pas tout à fait d'accord sur la manière de faire évoluer le jeu, The Big Movie, qui est un jeu de baratin un peu dans la famille de The Big Idea ou de Speed Dating, dans lequel on écrit des scénarios de cinéma.
Chez quel éditeur?
En principe, c'est chez Funforge.
D'accord.
Il doit y avoir aussi chez un nouvel éditeur dont j'ai déjà oublié le nom.
On cherchera.
Un vieux jeu à moi qui s'appelle Devine qui vient dîner ce soir, qui est un truc que j'aime beaucoup, qui est aussi un jeu de baratin. C'est aussi la même famille que Speed Dating, The Big ID. C'est un jeu de tchatch assez loufoque. Ça ne s'appellera peut-être pas Devine qui vient dîner ce soir, même si j'aime bien ce titre. Je sais que je suis en train d'oublier quelque chose. Oui, j'ai la Mouettrieuse, qui s'appellera peut-être pas comme ça aussi, qui s'appellera peut-être, je sais pas, le panda lubrique, hein, le chien en colère, voilà, le moustique hargneux, c'est pas mal. Bon. Voilà, donc qui doit sortir aussi, je pense, l'année prochaine. Et puis, bah, j'en ai plein dans mes cartons, dont je suis en train de discuter avec des éditeurs et... Et s'il y a des éditeurs intéressés, là, j'ai vraiment plein de choses en stock en ce moment. Donc, et j'en ai encore des tout nouveaux sur lesquels je suis en train de travailler.
Ok, bah écoutez Bruno, je vous remercie beaucoup en tout cas pour cette interview. Et puis ben à une prochaine fois, peut-être à Paris et Ludique.
Alors j'y serai certainement le dimanche.
Très bien, ben merci beaucoup.
Et je dois faire en principe les dédicaces de speed dating dimanche à 15h et des parties de speed dating. Et je ferai sûrement aussi des parties de mascarade. Je ne sais pas exactement à quelle heure, on va dire en gros le reste du temps.
Merci beaucoup, au revoir Bruno.
Au revoir.
Voilà, bah écoutez, merci beaucoup Fendwell, merci d'avoir pris ton micro et puis d'être allé représenter ProxyJeux.
Merci à Bruno d'avoir répondu aux questions.
Au CNJ, merci Bruno d'avoir de se plié à l'exercice. Alors juste, il faut que je précise que Fendwell rentrait des Amériques, il était jetlagué, ce qui explique qu'il est parfois un petit peu lent à poser ses questions. Non, je me moque. Donc Fenwell était un
il
petit peu...
Il est toujours lent à poser.
Non, mais là, il avait particulièrement... Je pense qu'il avait...
À son âge, hein, ça se comprend.
La bière, plus le jet lag, plus le... Bah, Bruno, quoi. C'est un petit peu comme si je rencontrais... Quand on a rencontré le docteur Knizia, quoi. Respect, quoi. Parce que Bruno Feduti, c'est quand même... J'ai beaucoup aimé qu'il lui pose la première question qui était « Qui êtes-vous ?»
Qui êtes-vous
Parce que c'est quand même une des figures de proue du jeu de société moderne français. Je comprends pas en fait qu'on n'ait pas mis sa biographie avant Bruno Catala parce que il a fait des incontournables. Il a fait Citadel et Citadel, c'est un des jeux qui m'a fait venir moi-même au jeu de société moderne. Donc bravo pour toute ta carrière, Bruno Feduti, tu rocks. Voilà, c'était mon hommage à Bruno Feduti. Qu'est-ce que Mascarade, ça te dit ? T'as envie d'y jouer ? Alors, je vais poser ma question autrement, parce que là, tu me regardes avec des yeux de Merlin Free. Est-ce que toute la mode des jeux, peu de cartes, ça te plaît pas ?
Bah, en fait, c'est pas ma catégorie de jeu.
Parce que là, en fait, on a eu Love Letters, et puis en fait, on a eu tout ce que Seiji Kanai fait autour d'un nombre minimal de cartes. Avant ça, on avait eu Pico.
Un Pico c'est bien, mais ça vaut pas cher. Pico c'est 1€.
Bah c'est 10 cartes, hein.
Ouais, mais c'est 1€.
Et c'est 1€.
Ça joue à 2, ça joue partout. Non, mais en fait, je dis ça, j'ai acheté Coup.
Oui. J'ai joué à Coup.
Et voilà, et moi je l'ai pas joué, mais j'ai la boîte chez moi, super. Donc c'est Complot maintenant qui est édité par Ferti. J'ai pas joué encore, je pense que c'est pas mal, mais il faut trouver le public qui va avec. Donc j'en ai un que j'ai déjà pas eu l'occasion de sortir en 6 mois, je vais pas en acheter d'autres. Et en plus, parce que moi, en fait, je joue plutôt du gros jeu de gestion plutôt que ça, plutôt que du jeu un peu plus de bluff, un peu plus party game à 6. C'est plus. Pour moi, j'ai une, deux occasions par an pour le sortir maximum.
Mais c'est un filler, hein. C'est un truc. Enfin, ça dure 10 minutes, un quart d'heure.
Mais en fait, pour moi, c'est plutôt. C'est pas un filler dans une partie de jeu. Enfin, quand je fais une soirée de jeu, je fais un jeu. Ça dure 4 heures, c'est un jeu, quoi. Mais c'est costaud, je fais 4-5 heures sur le même jeu parce que je prends du gros jeu. Ce genre de jeu, je les prends plutôt parce qu'on va passer une soirée chez des amis, genre un peu un truc apéro-dinatoire, etc. Et on sait que, bon, les gens savent que j'aime bien les jeux, donc ils attendent toujours que j'amène. Ouais, donc bizarrement, ils attendent que j'amène des nouveaux jeux. Ou en tout cas des jeux qu'on puisse jouer de manière sympa un petit moment. C'est-à-dire que sur la soirée, on va passer une heure à faire des jeux, donc je vais en amener quelques-uns. Bah, ce genre de soirée, une fois j'avais amené les coups, mais quand je l'ai présenté, je l'ai peut-être mal présenté, j'en sais rien. Mais du coup, les joueurs ont préféré, finalement, on a sorti le traditionnel Résistance. Voilà.
Ces coups, c'est facile à expliquer, c'est difficile à envisager en fait.
Et ouais, je pense que c'est pas pour tout le monde non plus.
C'est difficile à envisager parce qu'en fait, t'as des actions qui peuvent être contrecarrées, mais toutes les actions peuvent pas être toutes contrecarrées. Et il y a un moment où tu te mets en péril.
De la perte.
Ouais, bah c'est ça. C'est-à-dire qu'à un moment, tu dis non, je te crois pas, et soit tu peux le faire avec ton personnage et tu contrecarres la personne en disant je t'empêche de le faire, soit tu dis je ne te crois pas, et là c'est encore une autre action. Donc il y a deux niveaux, et cette différenciation-là, elle n'est pas claire, assez difficile de mon point de vue à faire, et ça m'a perturbé. En plus de ça, il faut des gens qui bluffent. C'est-à-dire qu'il faut que tu saches dire je regarde la liste des personnages.
Tu prends le rôle qui t'intéresse.
J'écoute ce que les gens vont dire. Je retiens ce que les autres joueurs ont dit en disant moi je suis un tel, moi je suis un tel, moi je suis un tel, et je me positionne. Et c'est pas évident. Donc tu as un nombre limité de cartes, mais c'est quand même une profondeur assez importante. Et moi je sais juste pas ce que Mascarade apporte. Quand les gens auront leur love letter ou leur coup, je ne sais pas si c'est pas un peu trop tard pour amener un jeu de ce calibre-là. Mais bon.
Il y a de la place pour tout le monde.
Tout à fait.
Mascarade est un jeu de Bruno Feduti chez Repoprod, illustré par Jérémy Masson, pour 2 à 13 joueurs à partir de 10 ans pour 30 minutes environ. Bien les jeux de l'été.
Oui.
Vamos a la playa.
Alors Jérémy, je te propose qu'on parle brièvement des jeux qu'on va emmener cet été dans nos bagages.
C'est moi qui commence, c'est ça?
Oui, comme ça, ça me permettra d'écrire, de prendre des notes pour dire qu'est-ce que je vais. Qu'est-ce que
c'est bien ce qui m'a semblé. Alors qu'est-ce que je vais emmener? Alors cet été, je pars dans un pays chaud.
Non, la Corse.
Ouais, je pars en Corse. Je pars au seul pays où il fera beau cette année. Donc, j'ai pas besoin d'emmener de jeux, en fait. Je resterai dehors. Non, qu'est-ce que j'ai? Alors, c'est, il n'y a pas beaucoup de jeux qui sortent là, qui me font l'œil, qui sortent en juin et qui me font l'œil, comme des fois ça a pu faire. Souvent, je me dépêche de trouver des jeux vraiment nouveaux, etc. Je crois que cette année, je vais emmener, en fait, des jeux de gestion que j'ai pas fait encore, que j'ai acheté à Essen l'année dernière et que j'ai toujours pas joué. Parce qu'il me reste 4 mois pour les jouer. Donc ça peut être Copycat, ça peut être il faut que je regarde, c'est-à-dire que j'ai parlé de la Boca, c'est très bien la Boca, mais il faut la boîte complète pour jouer, donc je peux pas l'emmener. J'ai acheté Pelican Bay.
Parce que tes cartes elles tiennent debout.
Ouais,
enfin, elles sont insérées verticalement, voilà, dans la boîte.
On pourrait le faire, mais sans ça, mais c'est pas pratique. Donc voilà, je pars quand même en voiture, donc j'ai un peu plus de, c'est-à-dire que je peux amener un gros sac bleu IKEA de jeux. Donc ça veut dire que je peux quand même me trimballer, puis je pars 3 semaines, donc je peux quand même me trimballer une vingtaine de jeux sans problème. Donc ouais, je vais prendre Pelican Bay, que j'ai acheté récemment, qui est un jeu de Jacques Zemmet chez c'est en allemand pour l'instant, mais la règle est déjà en français dedans, donc je pense qu'il sera distribué prochainement. C'est par les anciens de Dry Magir, maintenant c'est trois. Stéphane en avait parlé,
les trois lapins
au soleil couchant, ou je sais pas quoi. Voilà. C'est un jeu de pose de tuiles, j'ai lu la règle, c'est un jeu de pose de tuiles qui a l'air pas mal du tout, qui a l'air très sympa. À voir maintenant en testant, mais voilà, on va, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai Zoloretto, le jeu de dés qui vient de sortir. J'ai vu que des bons retours dessus. J'ai lu la règle, ça m'a l'air pas bête du tout. Alors peut-être que au lieu d'emmener Zoloretto version complète, qui est un jeu qui tourne souvent à la maison parce que je le trouve très intelligent. Faut dire qu'à la base c'était déjà un jeu de cartes brillant. Voilà, peut-être que je vais emmener le jeu de dés. On aime bien emmener ce genre de petits jeux de dés. On a des fois les comptes Catan en jeu de dés aussi qu'on emmène. J'ai acheté Island Fortress. Alors Island Fortress, c'est, par contre là c'est pas pour jouer en famille, c'est pour jouer uniquement à 2 ou 4 joueurs, mais c'est plus costaud. J'en sais rien du tout, c'est un achat un peu
impulsif.
C'est du blind complet. Non, c'est un jeu qui date et qui aurait dû sortir chez JKLM Games il y a longtemps, qui est coulé, qui est machin. Enfin, il y a toute une histoire. Le jeu, il a été relooké, il a été rethématisé. Je vais voir, je sais pas. Voilà. Et après, bah, je prendrai des classiques, hein, je pense. En sachant que je prendrai aussi beaucoup l'iPad, puisque de plus en plus de jeux sont sur l'iPad. Je n'ai plus besoin de prendre tout Agricola, qui, l'air de rien, avec toutes les extensions, pèse trop lourd pour être emmené en vacances.
Oui, surtout quand tu l'as pimpé.
Eh oui, c'est ça, il est pimpé, moi, avec toutes les extensions. J'ai plein de nouveaux plateaux, du matériel en plus, des petits fermiers, des petits animaux, des petits machins, tout est différent. Donc non, je peux plus l'emmener. Qu'est-ce que je prendrais d'autre, je sais pas. Bah oui, dans les jeux d'Essen, pas encore joué. Il y a Western Town, il y a peut-être, sachant que je joue plutôt à 2 en vacances, hein, évidemment.
Oui, tout à fait.
Voilà, pas de grosse liste bien définie encore, contrairement à d'autres années où je suis plus inspiré. Ah bah si, ou peut-être que j'emmènerais, non mais je pense pas, des JCE type Netrunner ou Star Wars, mais je pense que les vacances ça se prête pas à ce genre de jeu.
Et bah moi oui.
Toi, oui.
Je vais partir avec mes gamins et je vais plus parler des jeux que je compte auxquels je compte jouer pendant cet été, pas forcément des jeux que je vais emmener.
En général, les jeux que j'emmène, je compte y jouer, mais
non, parce qu'en fait, c'est un moment où on a un peu plus de temps et je compte faire découvrir les Wallace, donc London.
Et Jeff Team.
J'ai très envie de rejouer à London.
Avec des enfants?
Non.
Ah bon,
c'est entre adultes.
Ah, tu me fais.
Et à deux, ça se prête très très bien.
C'est très bien London
à deux. Keyflower, j'ai fait 2 parties. Je suis très content et juste.
Je pense que je le ramènerai effectivement.
Oui.
Il prend de la place, mais il est bien.
Il prend de la place.
Donc t'as beaucoup de tuiles quand même à prendre.
Ouais,
parce qu'après, moi, je rappelle ma technique, c'est qu'après, moi, je dépèce les boîtes, quoi. Je mets tout dans une seule boîte carrée.
Bah, c'est une demi-boîte, quoi.
Ouais, donc Keyflower, c'est ça. C'est une demi-boîte à lui tout seul.
Et j'ai vraiment très envie de jouer à ça. Alors après, côté enfant, J'ai une difficulté, c'est que j'ai des enfants qui sont un peu grands, donc 10 ans, donc 8,5 et 11. Donc tu peux commencer à leur faire jouer, je vais essayer de les initier au JCE du SDR avec le Hobbit, parce que le roi a vu le film. Donc je pense que le côté immersion, scénarisation, et puis j'avance dans l'aventure, ça peut leur plaire. La difficulté, c'est de jouer avec eux.
Ouais.
Et avec le petit qui a 4 ans. Et là, c'est compliqué. Donc, il faudra forcément que je me réserve des pauses avec lui et que je fasse des choses, le verger ou pique-plume. Parce que pique-plume, de toute façon, je vais peut-être prendre pique-plume parce que c'est un jeu qu'ils aiment beaucoup. Et, qui
tu va peux même jouer encore avec les grands.
Ouais, c'est ça. Mais donc, après, ça va être compliqué avec le petit. Par contre, avec les grands, ce sera JCE du Seigneur des Anneaux. Pas Netrunner, je compte y jouer, mais pas avec eux. Mytho, bien sûr. Et puis, comme l'année dernière, l'île interdite, The City, ils connaissent le jeu, ça va repartir. Et puis, Augustus. On va faire des parties d'Augustus, ça sera cool. Ouais.
Moi, ça a pas trop... Moi, ils n'ont pas pris.
C'est vrai?
Augustus, ça n'a pas pris. Pour l'instant, je le laisse dans un coin, on verra.
C'est chez le Gobelin Rose que j'entendais ça. Alors, ils préconisaient d'enlever les cartes rouges pour Augustus. Pour
les cartes un peu agressives, là, qui ont doublé.
Et moi, je les trouve naze, ces cartes. Je trouve que tu fais pas assez de points avec ou tu n'emmerdes pas assez les autres. Il n'y en a pas assez.
Quand tu leur dis un contrat, ouais, c'est vrai que ça change.
Et en fin de compte, toi, ça te rapporte pas assez par rapport à ce que t'embêtes les autres. Mais bon, bref, j'ai envie d'enlever ces cartes-là, de les faire jouer rien qu'avec avec les autres. Et puis voilà, donc j'ai encore 2-3 semaines pour me faire endoctriner par ce que tu m'as dit. Je vais réécouter ce que t'as dit là tout de suite, et puis je...
J'ai rien dit piocher. Spécial, moi.
Pas de... peut-être, bah si, t'as parlé de l'Aboca, je vais peut-être...
Ah, l'Aboca, par contre, ouais.
Je sais pas comment ça va se passer. Effectivement, avec le petit, même avec le petit de 4 ans, tu vois, ça peut être intéressant d'enlever le timer. Il y avait.
Ah oui, bien sûr, au début, il faut.
On a joué à Logicville. Ça me fait penser un petit peu à Logicville, en fait.
Logicville, c'est les machins. Faut préciser ces jeux smart game. Là,
et... Ouais, alors t'as un contrat et tu dois positionner, en fait, des animaux et des gens de couleurs, de certaines couleurs, dans des maisons. Tu vas avoir 3, 4, 5 voilà. Maisons côte à côte. Des animaux qui vont en bas, des gens qui vont en haut, et on va te dire le bonhomme rouge va à côté du bonhomme jaune.
C'est l'histoire du zèbre, hein, voilà. À la base.
Ce qui me fait penser.
Et c'était joué en solo.
Qui me fait penser que je vais prendre le. J'ai oublié son nom, le jeu Ayers Rock, c'est comment déjà son nom?
Ah, Uluru?
Ouais, je vais prendre Uluru.
Ah, ben moi, n'empêche, je l'ai pas acheté à l'époque, ben, il est introuvable maintenant.
C'est vrai?
Ouais.
On vous l'avait conseillé, j'espère que vous l'avez fait.
Ouais, à l'époque j'hésitais, j'ai dit ouais, je verrai plus tard. Et ben,
mais là pour voilà. Le coup, tu vois, c'est très bien. C'est, tu peux le faire avec. En plus, il y a différents niveaux de difficulté et ça marche très bien. Alors, c'est ce genre de choses qui peuvent s'adapter à des familles où tu as des enfants qui ont des âges un peu différents. Et donc voilà, donc, on va profiter d'être en vacances pour faire des travaux. Non, pas ça, pour
aussi.
Tester, pour revenir à des fondamentaux. Donc on va en profiter pour revenir au Martin Wallace de la bonne époque. Le JCE du CSDA. Mais alors là, j'ai une grosse difficulté.
Ouais.
C'est que quand tu as un cycle complet, plus une extension de luxe, plus le Hobbit, eh ben, ta boîte, elle pèse quelques kilos.
Il va falloir tirer. Bah oui, c'est ça, il faut trier.
Donc, bon.
Moi, j'ai pas précisé, mais j'emmènerai du Pokémon aussi, parce qu'on y joue bien en vacances, ça s'y prête bien.
Donc voilà, il faut faire jouer les enfants, il faut jouer quand on a du temps, et l'été, pendant les vacances, on va avoir du temps. N'oubliez pas que vous pouvez aussi initier vos voisins, vos amis, votre famille qui ne connaît pas le jeu de société moderne. Marrakech, j'en ai pas parlé, je vais le prendre aussi. Marrakech, c'est la référence pour moi en jeu de société moderne intelligent, facile d'accès et qui plaît aux enfants et aux adultes. Et il y en a plein comme ça. Pensez à compatibilité, pensez à des choses... Compatibilité, c'est vraiment bien aussi. Bref.
Ouais. Ah oui, on peut tout prendre.
Et puis, en fait, moi, j'ai une petite particularité, c'est que je vais passer une semaine à Valmeignier. Valmeignier, c'est un village de... alors, je sais pas si c'est en Savoie ou Haute-Savoie, dans les Alpes, qui organise... Où il y a une personne qui est Stéphane Burgunder, qui est gérant, en fait, d'un établissement de tourisme et qui propose une semaine à l'été, une semaine en hiver... de louer à bas prix en fait des studios. Alors l'hiver c'est incroyable parce que vous avez le forfait, vous avez la location pour vraiment rien et vous êtes à 2 mètres des pistes.
Mais cet été, la formule peut peut-être être reconduite, hein, vu la météo.
Mais non, mais le problème, c'est que c'est hors des périodes scolaires. Et là, en l'occurrence, bah, c'est de la montagne d'été, donc des randos, le téléphérique qui vous amène en haut, puis vous redescendez. Et puis du jeu. Donc c'est pour ça que je ne vais pas forcément amener grand-chose pour Valmeynier, ça sera plutôt pour avant. Alors, si vous voulez plus d'informations sur Valmeynier, sur la possibilité de location, vous n'hésitez pas, vous faites un petit mail à contact@proxy. Avec un jeu avec un x.fr, et puis je vous donnerai toutes les indications pour la location. C'est vraiment pas cher, c'est vraiment un site qui est super sympa, très sympa l'été et je pense encore plus l'hiver, et ça permet de passer une semaine à la montagne, plein de jeux de société, et puis de prendre l'air avec les enfants.
Bon, on va passer à cet Agricola là ou...
Ouais, on va passer à ce qu'on attend tous. La revue d'Agricola sur iOS. Enfin. Et ça.
Ça fait presque 2 ans qu'on a vu les premiers screenshots à Essen. Depuis, ça a carrément tout changé. Ils ont tout revu.
Non, comme d'habitude.
On n'entend rien.
Je sais pas si vous entendrez. Si, on entend quelque chose.
Ah oui, là oui. Ah voilà. Ça fait un peu 16e siècle.
Bah, le klaxon, bah, ça vous gagne.
Ouais,
hein.
18e siècle, les courbettes, tout ça. Super.
Alors, qu'est-ce que tu peux nous en dire? C'est toi qui fais la revue?
Ah bah, je sais pas si tu veux, mais du coup, tu.
Non, mais on va la faire à 4 mains, je pense.
Ouais, voilà. À 4 mains.
Bah oui, comme le piano, à 4 mains.
Oui.
Comme le clavecin à 4 mains.
Donc vas-y, donc je commence par le langage des signes. Mais je sais pas s'ils vont beaucoup comprendre.
Non, mais vas-y.
C'est moi qui commence.
Ah, qu'est-ce que tu peux être lourd des fois?
Oh bah, dis donc. Alors, Agricola, qu'est-ce qu'on peut en dire? Plein de choses.
D'abord,
qu'est-ce qu'Agricola? C'est un jeu, c'est ça, on commence par ça.
D'Uwe Rosenberg.
Un jeu d'Uwe Rosenberg qui est sorti en 2007.
C'est une simulation de vie à la ferme.
Voilà, avec beaucoup de contraintes où il va falloir. C'est de la pose d'ouvrier.
Tout à fait.
Et beaucoup de contraintes, puisqu'il va falloir régulièrement nourrir sa famille. On a un plateau pour faire développer sa ferme au départ.
Alors, attends, mais tu vas trop vite.
Peut occuper. Non, mais je.
D'accord, vas-y.
Et il faut, à la fin de la partie, il va falloir que le plateau soit rempli complètement. Pour le remplir, on fait grandir sa ferme. On va créer des pâturages pour y mettre des animaux. Il y a différents animaux, il faudra bien sûr en avoir de
mais...
tout. Et on va labourer ses champs et les semer et ensemencer pour avoir de. C'est quoi, c'est du blé, enfin des céréales et des légumes. Ouf, ouf. Des courges, des carottes, des choses comme ça.
Quoi?
Et les légumes, c'est ça.
Alors, si vous ne connaissez pas Agricola, vous allez arrêter tout de suite de nous écouter. Et puis, vous allez acheter Agricola. Parce que s'il y a un jeu qu'il faut avoir dans une ludothèque, c'est Agricola. Si vous ne voulez pas acheter Agricola, vous trouvez un ami qui est Agricola. Et vous faites une partie, si vous ne connaissez pas Agricola, il faut jouer à Agricola.
Il a sa place avec Puerto Rico, effectivement, dans la ludothèque. Hein.
Il y a deux modes de jeu. Un mode de jeu où on n'a pas de cartes. Parce qu'il y a des cartes qui s'appellent les cartes de savoir-faire, d'amélioration, mineure et majeure. On peut jouer en appréhendant les mécanismes ludiques de pose d'ouvriers, de choix des matières premières qu'on va récupérer, qui nous serviront à agrandir notre ferme. À construire des étables et des enclos dans lesquels on va mettre les bêtes. Et l'idée, c'est ça, c'est d'être bon partout. Et c'est la difficulté d'Agricola, c'est que, un, il faut pouvoir nourrir sa famille, et la famille, elle doit grandir le plus possible pour pouvoir, parce que chaque personne...
La famille, c'est important, la famille.
C'est ça, la famille, c'est important. Chaque personne de la famille, c'est une action qu'on fait tous les tours. Donc si on a deux, on a même papa, la maman, ça fait 2 actions. Le papa, la maman et l'enfant, ça fait 3 actions. Parce,
parce que l'enfant travaille. Il produit tout de suite, quoi. C'est trop
fort. Non, il faut un tour. Enfin, il faut un demi. Ouais, il faut un tour.
Ouais,
il y a l'enfantement, mais rapidement, il va au champ.
Voilà. Et il faut le nourrir.
Mais il faut le nourrir. Et quand on a 4 ou 5 personnages dans sa ferme, c'est super bien. Sauf qu'il faut des pièces pour loger sa famille. Et en plus. Il faut pouvoir les nourrir. Donc c'est un juste équilibre entre je peux nourrir et je dois avoir plus en plus de bras pour pouvoir travailler, pour faire plus d'actions, pour pouvoir plus... On s'en sortira pas.
Et sans parler que les autres joueurs, bien sûr, vont vous prendre la case que vous vouliez absolument, l'action que vous vouliez absolument, au moment...
C'est ça.
Ça queen un peu.
Ouais.
C'est bien, j'aime bien les jeux où ça queen comme ça.
Ça fait mal. Les premières parties font mal. Donc, si vous êtes un peu velu, que vous avez un peu d'expérience en jeu de société, ben, faites-les avec les cartes. Faites attention de ne pas vous perdre au niveau des cartes, parce que les cartes vous apportent des...
Je trouve que les cartes facilitent le jeu, en fait.
Et ben, moi, je suis pas d'accord. Enfin, je suis pas d'accord parce que...
facilite ton développement. Quand tu les maîtrises par rapport à un jeu famille.
Il y a 14 cartes, ce qui est important parce que les cartes, on va les retrouver dans le portage. Il y a 14 cartes, 7 pour les savoir-faire, 7 pour les améliorations mineures. Si on s'attache trop à poser le plus de cartes possible, on se perd, on ne met pas en place...
Il faut jouer peu de cartes. Moi, je joue 4 cartes, en gros, sur tout ce que j'ai. Quoi. Ça dépend ce que j'ai. Ouais, sur les 14, ouais, il faut faire effectivement des choix. Mais ça, ouais.
Et donc, une partie d'Agricola, ça commence par un draft.
Alors ça, c'est en mode maxi, pour sélectionner ses cartes. Ouais.
Ben, disons qu'on va avoir 14 cartes, soit vous les prenez au hasard et vous couinez parce que vous dites « Eh, mais il a cette carte-là, lui !» C'est dégueulasse, moi, j'ai pas de carte intéressante.
Mais t'as forcément une carte.
Soit vous faites du draft, et là, ça dure une demi-heure de plus, mais ben, vous regardez les 14 cartes, vous en gardez une ou deux, un savoir-faire,
un aménagement,
et vous passez votre paquet à votre voisin, et etc. etc.
C'est, en fait, on fait un Seven Wonders avant... Avant Agricola.
C'est ça. Alors on peut dire tout de suite que dans les choix qu'on peut faire de création de partie dans Agricola, le portage sur iOS, on a cette possibilité. On a soit la partie familiale, donc sans les cartes, soit une partie aléatoire. On a nos 14 cartes, on n'en parle plus. Soit, qui peut être une bonne alternative, on nous donne 10 cartes. Et on en garde 7.
Moi, c'est comme ça que je fais en général.
Et puis sinon, c'est du draft. On continue sur la création de la partie. 1, 2, 3, 4, 5. On peut jouer jusqu'à 5.
Bon, faut vite, hein.
Soit avec 5 humains, soit mixé avec des IA. Les IA, il y en a 3 niveaux, le compagnon, le maître et l'apprenti. Tu as une idée, toi, de la valeur des IA?
Non. J'ai pas.
Ils jouent bien? J'ai pas assez de recul pour te dire.
Moi, non, ça non plus.
Bon, après, il y a un mode en ligne. Donc, si vous n'aimez pas les IA, vous pouvez jouer en ligne.
Voilà.
Et vous aurez des vrais humains à battre.
Et vous pouvez jouer à plusieurs sur le même iPad. Ouais.
Et j'ai trouvé que c'est peut-être une des remarques que je ferais, c'est que c'est assez difficile. En fait, juste, vous avez un profil. Modifiez votre profil, parce que sinon, vous ne pouvez pas mettre votre nom sur le...
Ah oui, c'est compliqué la partie. Ils sont allés trop loin dans la gestion du profil.
C'est con, hein, parce qu'en fait, t'as profil ou joueur 1 ou je sais plus comment ça s'appelle.
Mon profil.
Et donc, tu t'essayes, t'appuies, tu dis, mais je veux changer. Alors, tu peux changer les autres, mais pas le tien. C'est juste, voilà. Bon, bref, c'est juste un petit truc. Et donc, comme pour les parties de jeux de société sur le plateau, bah, on peut complètement customiser la partie qu'on veut jouer.
Oui, bah après, le reste.
Oui.
Alors, ça se voit dès le. Bah, moi, ce que j'aime, en fait, c'est. Ouais. Pour aller vite, ils ont. Playdeck, ils l'ont dit.
Mais je pense que là, on peut s'attarder un peu.
Ah bon?
C'est
ah
bah, juste. Ouais. Attends. C'est juste le meilleur portage
oui.
de jeux de société.
Du portage ou on parle du jeu?
Sur iOS.
Si on parle du portage, ça démarre sur le portage, mais on parlait du jeu.
Bah là, c'est ce qu'on fait, là, non?
Bah, je sais pas. Moi, j'avais parlé du portage, du coup.
Alors, mais vas-y.
Ah bon.
Mais on peut prendre son temps, on peut prendre le temps de,
ah oui,
de s'attarder un peu.
Donc, Playdeck, ils avaient annoncé qu'ils ont déjà quelques beaux jeux à leur actif. Hein. Ils ont fait Ascension, il y a Summoner Wars qui est sorti l'année dernière pour l'été. Un peu comme Agricola là, c'est-à-dire vraiment des jeux qui ont été vraiment plébiscités un peu partout sur Internet. Et là, ils avaient dit dans une interview récemment qu'ils estimaient qu'ils avaient suffisamment d'expérience maintenant pour dire, bah, quand on adapte un jeu de société sur une tablette, on se borne plus à faire juste un portage simple du jeu. Et avec Agricola, cette fois-ci, on a clairement l'illustration de ça. Pourquoi ? Bah, par exemple, parce que dès qu'on lance le jeu, on a plus l'impression de se trouver devant un jeu, on va dire, normal à iOS.
Oui.
Hein, parce qu'il y a de l'animation partout. Même sur le menu, bah, tout bouge, quoi. Il y a le fermier qui cligne des yeux.
C'est incroyable.
Il y a des petits papillons qui volent.
Des feuilles qui tombent.
Voilà. Et ça va être pareil pendant le jeu. C'est-à-dire que les plateaux de jeu, etc., il y a toujours l'animation. Dans la ferme, il y a la petite bougie, il y a la flamme qui vacille, il y a le chien qui remue la queue.
Le berger allemand.
Ouais, c'est le berger allemand.
Et
ouais.
En fait, on a tous un animal de compagnie. Ça peut être un berger allemand ou un chat.
Et on et
c'est du détail.
Sur le plateau principal sur lequel on va choisir les actions, c'est pareil. Donc là, ils les ont fait, c'est représenté en fait, contrairement au jeu de plateau, ils ont un retour au looké. Donc maintenant, c'est une rue principale avec des petites maisons. Il y a une petite pancarte devant pour dire ce que fait la maison, ce qu'on peut faire comme action. Et il y a les petites poules qui se promènent sur la route, etc. Mmh. Les animations, rien que les animations, c'est déjà c'est super immersif. Et c'est, je suis sûr que c'est ce qui va amener, enfin c'est ce qui peut amener le grand public, on va dire, à des jeux, à découvrir des jeux comme Agricola. Voilà. Après, je ne sais pas si tu veux compléter sur cette partie-là.
Non, je voulais dire un mot en fait de justement du portage du plateau. La difficulté qu'on a quand on a un iPad, c'est que le plateau il est super réduit. C'est-à-dire ils ont fait le choix de faire une rue,
ouais,
placer toutes les cases de part et d'autre de la rue, et il faut slider d'un droite à gauche pour trouver la case qui nous intéresse en fait. Donc c'est chaque action représentée par une illustration. Et en fait, en appuyant sur un point d'interrogation, on peut, plutôt que d'avoir des illustrations, avoir
les noms
des actions qu'on peut choisir.
Et ce serait bien que ce soit toujours affiché le nom plutôt que d'avoir à chaque fois appuyé sur point d'interrogation. Mais
après, voilà. C'est...
Non, mais il faut pouvoir le choisir. Ça, c'est peut-être le seul truc qui est un peu délicat. Quoi.
C'est le parti pris graphique, c'est justement de dire, t'es dans une sorte de jeu de société, enfin de jeu plutôt de jeu vidéo. Où tu vas slider, où tu vas dire je vais faire cette action-là. Après, il faut aussi porter ton pion sur la case. Ouais. C'est pas très intuitif, mais ça marche quand même. Quoi.
Ouais, je me suis demandé pourquoi il fallait faire effectivement souvent. Il faut quand même encore faire glisser. Je pense que c'est pour garder le côté justement encore un peu tactile entre guillemets du jeu de société.
Ouais, c'est ça.
De déplacer son jeton. Sur le reste, on l'a pas dit, mais c'est pas tous les jeux qui sont comme ça. Il est en français.
Oui.
Il est multilingue et il est en français.
Oui, tout à
et
fait.
Ça, c'est super important. Et pour démarrer le jeu, si vous ne connaissez pas le jeu ou si vous voulez le prendre en main, il y a des didacticiels qui vont tout vous expliquer comment on joue. Et la bonne idée, c'est qu'ils n'ont pas fait un didacticiel qui dure 30 minutes à tout suivre. Ils l'ont découpé en plein de petits didacticiels qui vont nous apprendre petit à petit les différents éléments. Ça, j'ai trouvé ça très très intéressant pour quelqu'un qui ne connaîtrait pas le jeu. Par contre, le didacticiel, attention, quand vous faites, du coup, il fait faire une petite partie de test. Et elle est, on va dire, elle est facile, c'est biaisé. On arrive à faire un super score à la fin parce que tout tombe nickel et il n'y a pas d'adversaire.
Ouais,
du coup, on va pouvoir nourrir tout le temps.
C'est les meilleures conditions.
Ouais, c'est dans les meilleures conditions. Il ne faut pas s'imaginer que le jeu est aussi simple ensuite, évidemment. Mais rien que l'aspect, le fait que le jeu est en français, c'est déjà, c'est énorme. C'est un travail de traduction important qu'ils ont fait. Le didacticiel, il y a énormément de textes, il y a toutes les cartes. Enfin, c'est un travail de fou, hein. Je crois que même Summoner Wars, il n'a jamais été traduit. Je crois qu'ils l'ont laissé tout en anglais, par exemple. Voilà, et par contre, pour continuer, il y a un mode solitaire, parce que sur les iPads, on joue parfois contre les IA, et il y a un mode un peu challenge en solo, où on va jouer, en fait, on va petit à petit devoir faire améliorer son score au fil des parties, en gardant une partie de ce qu'on a fait, ce qu'on a gagné, ce qu'on a acquis à la partie d'avant, jusqu'à ce qu'on rate, et dans ces cas-là, il faudra, je crois, repartir à zéro.
Et ça, c'est pas mal.
Ça change, c'est un petit peu comme le portage de Carcassonne qui a son mode un peu une sorte de version d'optimisation, une sorte de puzzle game aussi d'optimisation qui change toutes les semaines.
Oui.
Ça, ouais. C'est un moyen de donner une nouvelle vie au jeu.
Oui, et puis si t'as pas envie d'affronter un adversaire, ouais, tu peux. Parce que justement, on a parlé en tout début, t'as introduit en disant c'est peut-être ça qui va faire venir les non ouais. joueurs au jeu. Le problème, c'est que c'est pas le plus facile des jeux. Et il y a quand même, on en a parlé dans le 46A, une pression, faire oui. manger sa famille.
Ça. Et surtout que le didacticiel ne le montre absolument pas, puisqu'on arrive à chaque fois.
Et ce qui m'a un peu troublé, c'est qu'en fait, le but du jeu, moi quand je présente Agricola, je dis attention, il faut tout faire. C'est-à-dire ouais. qu'il faut remplir votre exploitation agricole, et puis il faut faire des légumes. Il faut avoir des légumes, il faut avoir des céréales, il faut avoir ouais. Au moins un représentant de chaque animal, etc. etc. Et là, en l'occurrence, c'est bien parce qu'ils prennent les choses à l'envers, ils disent voilà comment vous allez développer votre ferme. Et puis après, on t'explique le décompte des points. Et encore une fois, on le prend dans l'aspect vous verrez, c'est facile. Après, c'est peut-être nous qui sommes un peu biaisés et qui voyons les choses un peu de façon. C'est peut-être la bonne façon de présenter les choses en disant. Tu vas et puis tu fais ça comme ça comme ça, mais alors dans ce cas-là il faut pas jouer contre des gens qui connaissent, il faut pas jouer contre des IA qui sont un peu fines, parce que sinon tu vas te faire exploser quoi.
Tu joues contre le novice de toute façon, puis après tu
ouais.
pour découvrir
Et puis, sans les cartes, puis tu rajoutes des cartes. Et puis,
Oui, il faut jouer sans les cartes et les mettre après, oui, c'est sûr.
Tu m'as fait la réflexion que le portage sur iPhone était que la façon que le fait.
Bah en fait, c'est une appli universelle
soit,
et elle se joue sur iPhone.
Sur iPhone, ouais. Soit pas un handicap.
Non, j'ai pu. En fait, mes prises en main du jeu, je l'ai faite sur iPhone et ça s'est très bien passé. Parce qu'en fait, même si les pions sont petits à faire glisser, c'est pas un problème. La lisibilité est bonne. Les cartes, on arrive à lire le texte qui est dessus. J'ai trouvé aucun souci pour jouer sur iPhone. Ça, c'est un bon point.
C'est clair.
Voilà, parce que bah, du coup, c'est quand même un jeu qui est un petit peu long, hein, même en version portée.
Tout à fait.
Et du coup, dans les transports en commun, alors c'est sûr, des fois on a que 5 minutes, donc c'est pas ça qu'on va sortir. Mais moi, par contre, je peux facilement être 3 quarts d'heure dans les transports en commun, et du coup, bah voilà, je peux me faire une partie, quoi. Ça, c'est sympa. Sur les autres aspects qu'il y a, on retrouve la patte Playdeck sur quand on finit son tour, quand on finit l'action, on retrouve toujours le petit principe d'une petite coche verte. Enfin, là, c'est un petit triangle, je sais pas quoi, qui est en vert, qui veut dire on peut finir son tour, on peut finir son action, et on peut revenir en arrière et on annule tout. Mmh. Voilà, ça, c'est des choses qu'on a déjà vu dans d'autres jeux de chez Playdeck, mais on retrouve vraiment. Enfin, cette ergonomie-là, ils l'ont toujours depuis le début, preuve qu'elle doit marcher. Parce que,
sauf pour Ascension.
Non, dans Ascension, tu l'as aussi, puisque tu peux, quand t'as fini de jouer toutes tes cartes, t'as une petite flèche verte sur la droite qui dit tu peux.
Oui, mais tu peux pas revenir en arrière.
Ah, par contre, tu reviens pas en arrière, non.
Et c'est ce que je disais pour Ascension, c'était un problème parce que t'as des cartes qui se jouent dans un certain ordre. Si tu t'appuies sur Play All, tu vas jouer toutes tes cartes dans l'ordre et ça va pas forcément matcher avec ce qu'elles font.
Ah oui, ben il faut pas faire.
Tu peux pas revenir. Oui, mais tu peux.
Mais tu peux revenir en arrière. Ouais, ouais.
Et c'est con parce que tu pourrais dire juste après Play All, vous pouvez revenir en arrière. Ça aurait été juste pas revenir tout le tour, mais juste ça. Et ça change rien en fait.
Mais bon.
Enfin, ça change rien.
Mais Ascension, ils l'ont sorti il y a presque 2 ans, donc il faut.
Et là, en l'occurrence, le fait de dire, par exemple, je vais choisir une action qui va me permettre de faire une. Amélioration mineure ou un savoir-faire. C'est ce que j'ai trouvé le plus compliqué par rapport à l'interface, à la charte graphique.
Ouais.
Parce que tu as un moulin et tu as un puits. Alors je suppose que le moulin c'est le savoir-faire et le puits c'est les améliorations. Et c'est pas clair. Au début tu te dis mais qu'est-ce qui représente quoi ? Donc tu es obligé d'appuyer sur le point d'interrogation, mais moi ça me gonfle. Ouais. Donc je laisse le plus possible la charte graphique et puis les petits symboles. Et en fin de compte, enfin, je dis ça parce qu'en fait, j'avais pas vu au départ que tu pouvais appuyer.
Ah, c'est pour ça.
Et c'est ma partenaire de jeu qui m'a dit, bah oui. Et alors j'ai dit, ah, c'est super, toi.
Parce que t'as pas fait le didacticiel.
Si.
Ah bon.
Parce qu'il le dit.
Ils expliquent, ouais.
Ah, d'accord, ok.
Mais moi, je fais le didacticiel, c'est uniquement pour en parler après, pour dire s'ils sont bien ou pas.
Ouais, non, mais enfin, la preuve que je l'ai fait trop vite. Mais si tu veux, enfin, moi, j'aime bien cette partie, je regarde, tiens, je veux du bois, Et alors, il y a un autre truc qui m'a un petit peu embêté aussi. Plutôt que de dire, sur la case où c'est marqué, ou sur la case où il y a du bois, de dire, il y a tant de bois, il y a 2 chiffres.
Ouais, ils ont mis 2 chiffres, ça c'est pareil.
Il y a le nombre de bois et le nombre de bois par tour.
Le nombre par tour, ouais.
Et en fin de compte, on s'en fout un peu. C'est-à-dire que plutôt que de dire, de toute façon, on va mettre que le nombre de bois qu'il y a autour le tour. Et puis éventuellement, si on appuie sur point d'interrogation, il y a le nombre de bois qu'on va avoir au tour suivant. Ben là, en l'occurrence, ce qui est important aussi, parce que si on laisse passer un truc où il y a déjà 3 boîtes, on rajoute 3, ça fait 6, c'est énorme. Je suis tout à fait d'accord.
Je prends que quand il y en a 9.
Mais d'un autre côté, ça veut dire que tu fais pas ça au début, d'accord. Mais d'un autre côté, c'est un peu bizarre parce que tu dis, c'est quel est le chiffre qui prédomine. En plus, t'as un chiffre et t'as un nombre.
Ouais, puis en plus, c'est une petite bulle.
Enfin, t'as des illustrations qui correspondent pas. Ça se pollue un peu.
Bah, je pense que c'est. Oui, c'est on chipote. Parce que vraiment, enfin, bon, graphiquement, c'est d'une beauté. C'est à tomber. Ah, mais oui, c'est des petits détails. Mais après, peut-être qu'ils les corrigeront. Peut-être que c'est nous qui nous habituerons. Hein, faut quand même le dire aussi. On peut bien sûr créer plusieurs parties et revenir sur les parties qu'on a créées. Ça, c'est bien. Enfin, tout est complet en fait. Par contre, alors quand on parle des aménagements mineurs et savoir-faire, c'est-à-dire que dans le jeu de plateau normal, il y a plusieurs types de decks. Il y a un deck pour les débutants, et puis après, il y a un mode interactif, c'est-à-dire que les vont plus avoir d'action avec les autres joueurs, et puis il y a un mode avancé.
Oui.
Dans la version iOS, là, il n'y a que le deck débutant. Les autres decks arriveront, je pense déjà qu'il faut qu'ils les traduisent, et ensuite ils seront vendus en in-app purchase à 99 centimes. Enfin, 99 centimes.
Ouais, mais ça, c'est.
C'est pas. Non,
c'est
non,
comme Ascension, c'est pas.
Ouais, non, non.
Quand t'as dépensé 6 euros pour un jeu comme ça.
Ouais, oui, non, mais je précise juste qu'ils n'y sont pas pour l'instant. Donc c'est vrai que le beginner, après moi je le joue moins. Et puis j'espère qu'ils auront tous les autres decks, parce qu'il y en a plein qui sont sortis depuis. Ça peut être sympa d'amener un peu plus de
diversité. Il y en a tellement, t'es fou, toi. Tu crois qu'ils vont nous sortir le deck belge et
Le belge et puis
le fairy tale.
Le fairy, exactement. C'est exactement les deux auxquels je pense. Ou ceux avec les extraterrestres, là, le X. Non, c'est pas le X, oui, si. Ah, ils en ont sorti plein, mais ouais, mais c'est... Enfin, si on peut donner une variété.
Mais tu vois, en fait, t'as deux moutons dans l'enclos, alors que tu peux en prendre qu'un.
Mais c'est marqué un.
Oui, d'accord. Il y en aura, en fait,
mais
il y en
quand
aura
16, ils n'en mettront pas 16. Hein.
Oui, mais il y en aura qu'un seul. Non, mais ok, mais c'est perturbant.
Ah oui, c'est perturbant, ouais.
Bon, bref. Ne vous méprenez pas, on est en train de critiquer, on est en train de vous dire ce qui va pas.
Les maisons, elles ont la fumée qui sort de la cheminée ou machin.
C'est beau, et quand on arrive, alors en haut à gauche, vous avez le nombre de tours, parce qu'au départ il y en a 4, après il y en a 3, après au dernier tour il y en a que 2. Vous savez exactement à quel moment vous êtes de la partie. Quand vous arrivez à la fin, il y a une partie automne, récolte, reproduction, je fais manger, mais...
Là, on sait exactement où on est.
C'est super beau. Après, il pleut, après, il neige, comme si c'était une année par tour, mais par manche, en fait. 4 actions ou 3 actions, enfin, je sais pas comment dire, mais en fait, tu fais 4 manches au début. Ça représente
4, près 3,
une saison.
Et à la fin, c'est 2, ouais, je sais pas trop comment.
Une saison. Enfin, eux, ils l'ont représenté en saison et c'est super bien foutu.
Ah ouais.
En plus, tant qu'on est dans les bonnes choses, t'as vu comment tu fais pour broser les cartes, c'est-à-dire pour regarder les cartes que t'as, les 14 cartes. En fait, une petite pichenette sur le côté, tu les fais monter et après, quand tu les fais descendre, il y en a une autre qui arrive. C'est-à-dire que quand tu les pousses,
j'ai pas fait gaffe.
Quand tu les pousses, en fait, comme ça, hop.
Ah voilà, non, mais tu appuies sur une. Ah ouais, j'ai pas fait ça.
Donc quand vous avez appuyé, effectivement,
il y en a une
vous en regardez une, et après le fait de faire un petit glisser sur la droite, ça vous fait regarder celle de gauche.
Oui, il y a pas besoin de la descendre pour en cliquer sur une autre.
Et quand vous les poussez vers le bas, ça vous fait avancer. Quand vous voulez pousser vers le haut, ça vous fait revenir en arrière. Ce qui est bizarre. Mais c'est bien foutu et le gesture dans le jeu, ça marche, quoi.
Ouais, mais c'est juste que tu vas à droite à gauche. C'est quand tu vas en haut ou en bas, en fait, tu.
Ouais, mais quand tu vas à droite,
machinalement,
ça revient à gauche.
Voilà,
et quand tu vas à gauche, ça va à droite.
Ah oui.
Oui, parce que tu le pousses vers la gauche et donc c'est celle. Ouais, bon, bref.
Non, mais c'est
logique,
quand même pratique.
Mais je trouve que c'est bien foutu, en fait.
Et les cartes sont bien lisibles, quoi.
C'est bien lisible, c'est en français, c'est juste bien fait, quoi. Il y a rien d'autre à dire, c'est super bien fait.
Ouais.
On retrouve à l'affichage donc le point d'intégration pour l'aide qui permet de remettre tout ce que font les bâtiments. On passe, ce que t'as pas dit, de une interface ville. Et l'interface ville, c'est cette rue de partout d'autres desquelles on va retrouver les actions. À l'interface ma ferme.
Et
en fait, on a. C'est bizarre aussi parce que, donc, à droite, on a
le plateau normal, ouais, mais c'est comme ça qu'on joue.
Voilà. Et puis, à gauche, ouais, nous, on les met en dessous, mais à gauche, vous allez avoir les cartes. Donc, vous allez avoir vos aménagements, vos savoir-faire, vos aménagements mineurs. Il y a 3 lignes sur lesquelles vous allez mettre vos cartes. Et voilà. Et encore une fois, le souci du détail, quoi. Enfin, quand on regarde. On voit le petit papillon qui passe, c'est animé. La bougie.
Ouais, c'est ce que je dis, la bougie.
C'est
le chien,
chat qui remet la queue. Enfin, c'est juste. Il se passe toujours quelque chose là-dessus. C'est juste incroyable, quoi. Donc, l'ergonomie est au rendez-vous. L'animation est au rendez-vous. Ça vit. C'est super joli. Vous savez en temps réel le nombre de points que vous avez marqué. Donc, le décompte, vous savez où est-ce que vous en êtes par rapport à chaque sujet, en fait, les champs, les pâturages, etc. etc. Et puis, y a un autre truc, c'est la période du jeu et les cartes qui vont arriver. Alors ça, je me plaignais un peu de ça, de savoir ce qui pouvait arriver. C'est juste ce que je regrette, mais ils l'ont quand même aussi bien fait.
Mais c'est comme sur comme la version plateau. Hein.
On peut voir, en fait, quelles sont les cartes qui vont arriver en période 1, en période 2, en période 3. Et c'est, en fait, t'as vu, c'est le seul truc qu'ils n'ont pas... francisé, c'est ça. C'est marqué stage.
Ah oui, 1, stage je vais dire justement, 3. Par contre, au niveau de la francisation, j'ai vu aucun problème, aucune erreur de trad dans les cartes, etc.
On leur passe, hein, c'est...
Oui, bien sûr.
C'est juste beau. On a en bas le décompte pour chaque pour les matières premières et les animaux et puis les céréales. On a quand on est en multijoueur, on peut voir à tout moment ce que les autres ont fait. C'est juste bien. Voilà. C'est juste achetez-le.
Bah oui, mais comme vous l'avez déjà fait sans doute.
Ouais, mais alors si vous vous tâtez, vous voulez une tablette pour emporter pour les vacances. Parce que ça aussi, on n'a pas parlé, mais les jeux sur tablette, ça va y aller pendant les congés. Quand on sera en vacances, ça va nous éviter de porter 3 kilos de jeux.
De toute façon, si vous prévoyez, quand vous achetez une tablette, si vous prévoyez de devoir faire du jeu de société, il n'y a pas de solution. Hein, c'est iOS.
Non, il n'y a pas l'alternative.
Il n'y a pas d'alternative. Et puis après, de toute façon, c'est foutu, parce que genre, vous devez la remplacer, vous resterez iOS, sinon vous perdez tous les jeux que vous avez achetés.
C'est ça. Et puis, moi, tu vois, avec Ascension, et même Ascension, mon gamin qui a 11 ans et qui parle pas un mot d'anglais, il joue Ascension. Et je pense que je vais les faire jouer à comment ça s'appelle, Dark Omen.
Elder Sign,
et ça va être pareil. Bref, donc on n'était pas en train de parler d'Elder Sign ou d'Ascension. Bien que ce soit aussi des très bons portages, on parle de Agricola. Et Agricola, c'est clairement le meilleur portage de jeux de société sur iOS. Il n'y a pas d'autre mot. Ça vaut les 6 euros. C'est 6 euros, mais ça les vaut largement.
Oh bah oui.
C'est de nombreuses heures de jeu pour vous et pour votre famille. Vous pouvez jouer sans les cartes, avec les cartes. En fait, tu vois, c'est ça. Ils auraient pu sortir le jeu en disant on va mettre que la version familiale. Ouais. Ou que la version. Ou un jeu à deux joueurs. Ou... Non, mais ils ont fait ça, mais au.
Ils ont bossé plus d'un an dessus, presque 2 ans. Le résultat est là, quoi. C'est très bien. Quand je dis que Playdex est dans mes éditeurs préférés, la preuve. Hein,
ouais.
Ok. Bon. Je passe vite à Catan. Je peux faire 20 minutes sur Catan.
Ouais, désolé. Désolé parce que. Alors, après ça, on va dire. Voilà, bon, Catan.
Voilà, exactement. C'est-à-dire, donc l'éditeur qui fait le jeu de cartes Catan. Donc là, c'est la version, le jeu de cartes A2 qui s'appelle maintenant Les Princes de Catan. Chez Philosophia. Parce qu'en fait, les contes Catan, jeu à deux, il date de. Il a plus de 10 ans. Et.
C'est sur iOS, ça ?
Ouais, il vient de sortir. Rival for Catan.
Ah, mais c'est ça ? C'est, ouais. C'est le jeu à deux ?
Ouais.
J'ai rien compris, moi.
Bah oui, c'est possible.
Quand tu l'as annoncé. Mais non, ça, il faut pas acheter.
Bah, c'est beau.
Non, mais jouer Agricola sur à deux, sur. Ou alors vous achetez Ascension, mais vous achetez pas que Colon de Catan, non ?
Bon, c'est ce que je disais à Olivier. Donc c'est Les Princes de Catan, mais non, mais depuis le jeu a été modifié.
C'est chiant, quoi.
C'est un jeu à deux.
Attendez, excusez-moi. Juste une aparté. En jeu à deux, Catan, ça a 20 ans. En 97.
Non, 93, ouais. Il a 94, ouais. 94.
Ouais, c'est 20 ans.
20 ans, ouais.
Donc les Colons de Catan, ça a 20 ans. Bah,
on sent qu'il a 20 ans.
Ouais. Et en fait, jeu à deux, c'est juste. La même chose, mais à deux, quoi.
Non, ça n'a rien à voir.
Ah, si, écoute, tu lances un dé pour savoir ce qui va.
Alors, ça, c'est le plus gros produit. Ça, c'est le défaut du jeu. Je ne joue jamais à Catan en lançant le dé. Il y a tout plein de variantes où tu mets des cartes.
Ouais, mais là,
malheureusement, ils n'ont pas implémenté dans le jeu et dans l'application, ils n'ont pas implémenté cette solution.
Ah, mais c'est horrible, quoi.
Mais pour le reste.
Alors, écoutez le 46A, on parlait des jeux d'un autre âge. Je ne ressortirai plus jamais les Colons de Catan à deux, quoi. Bon, excusez-moi. Je pense que je vais me faire taper. Je vais dire, qu'est-ce que tu fais chier ?
Non, je reconnais que le problème de ce jeu, c'est que quand on joue avec les cartes, ça peut durer une partie à deux, peut durer plus d'une heure. Quoi. C'est long. C'est long parce que justement, à cause des problèmes de dés qui tirent les. Mais bon, on peut le remplacer par dés. Ouais.
Non, mais je pense qu'il y a plus intéressant.
Au niveau du port. Après, le portage, graphiquement, bah, il est aussi d'une autre époque. Hein. Enfin, c'est pareil, ils ont.
Bah, je pense qu'ils ont pris les graphismes. C'est le graphisme de l'époque ?
Oui, mais je veux dire, quand tu vois Agricola, où ils n'ont pas hésité à virer les graphismes du jeu de plateau pour remettre les leurs dessus.
C'est les mêmes.
Et ben là non, ils ont voilà, là ils ont.
Enfin,
pas...
ils ont gardé la charte graphique, donc la charte
graphique.
La charte
graphique, voilà, du jeu de base. Mais l'éditeur, ils ont déjà, c'est eux déjà qui ont fait Catan, le Catan normal. Ils ont déjà fait, c'est eux qui ont fait le portage à iPad des comptes Catan que je vous déconseille par contre, passage. Alors que là non, c'est quand même correct. Il est qu'en anglais, par contre, forcément. Donc du coup, je pourrais pas laisser mes enfants y jouer. Globalement, je sais pas. Après, si vous aimez ce jeu à deux, on retrouve tous les aspects. Comme je dis, il reprend donc Les Princes de Catan, qui est une version. Ils ont changé un petit peu, c'est-à-dire qu'il y a une version pour débuter, pour apprendre le jeu. Puis après, ils intègrent des decks à thème pour un peu faire évoluer le jeu. ça c'est très bien. C'est en fait c'est là-dessus qu'ils ont un petit peu rénové, on va dire, le jeu par rapport à ce qui existait il y a 10 ans. Moi, après, sur le portage, oui, le truc un peu bizarre, c'est que...
Excuse-moi, ce que j'ai, par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est vrai qu'il y avait énormément d'extensions et que ça prenait son sens avec les extensions.
Et il y avait les extensions,
et,
voilà.
Et ce que je viens de dire, ça vaut surtout par rapport au jeu de base.
C'est quand même un jeu où il y a de l'interaction, c'est à deux joueurs, mais il faut quand même un petit peu réagir par rapport à l'autre pour reprendre les majorités dans le militaire, choses comme ça. Alors oui, il y a le hasard du dé par rapport au dé, aux productions, mais c'est, enfin moi c'est pas mal, j'aime beaucoup, j'aime quand même parce que il y a une part de, faut planifier à l'avance, faut essayer de deviner un petit peu à l'avance comment on va faire. Il y a de la pioche de cartes, on peut dire ouais, il y a du hasard, mais il y a des moyens de le réduire parce qu'on peut payer des ressources pour aller prendre une pile de pioches. Il y en a 4 ou 6 de piles de pioches, et on prend dedans et on choisit la carte que l'on veut. Donc on va vraiment pouvoir réduire le hasard parce que très rapidement on peut, on sait les cartes qu'il y a dans chacune des piles, et donc après on sait où est-ce qu'il faut aller chercher quoi. Il faut bien sûr se mémoriser un petit peu. Donc ces aspects-là, c'est bien. Le portage après, il est correct. Franchement, non, mais il est pas mauvais, le portage. Mais c'est sûr qu'après avoir joué à Agricola, je pense qu'il sort juste au mauvais moment. Mmh. Moi, ce que je reproche par contre, c'est qu'il y a encore plein, tu vois, dans Agricola, on dit ah ouais, bah, le pion, faut le faire. Agricola, des fois, les choix, ils sont pas faits automatiquement. Enfin, il y a qu'un choix, mais c'est que tu dois quand même faire glisser le pion sur la case et tout. C'est un peu chiant. Et bah là, c'est pareil, c'est-à-dire que quand je joue une carte et qu'il faut que je paye, par exemple, je construis une route, il faut que je paye 2 argiles et 1 bois. Eh ben, c'est à moi d'appuyer sur les cartes et on les voit pivoter comme dans comme tu fais avec le jeu de cartes normal. Donc tu dois appuyer dessus pour faire pivoter de 2 crans pour dire bah, j'utilise 2 ressources. Mais ça sert à rien de pivoter parce que de toute façon il y a juste ton chiffre. Et il pourrait le faire pour toi, il pourrait le payer pour toi. Sauf dans les caps un peu spéciaux.
Ouais, tu pourrais appuyer dessus et.
Ouais, ou même pas. Enfin, ouais, tu dis ok, je joue la route, payer et puis terminer.
C'est ça.
On peut pas revenir en arrière à son tour. Donc ça, c'est vraiment les trucs, pour moi, c'est un peu dommage. Voilà, et graphiquement, ça a un peu vieilli.
Et oui.
Pour autant, le jeu est agréable. Faut quand même pas déconner non plus. C'est pas... Olivier, il va un peu fort. Il est jouable sur iPhone et sur
Android.
Et sur l'iPad. Non. Mais tu peux le jouer aussi en universel. Et il est à 3,49. Ils ont pas fait un prix.
3,49
trop... Ça va, ils ont pas fait un prix trop poussé, quoi.
Ouais, mais.
3,49 si tu veux, ça me, c'est pas un prix
non
qui me choque par rapport
au. Heureusement.
Ouais, justement. Mais je pense qu'Agricola, ça va faire mal parce que du coup, à 5,99 un Agricola, bah, c'est sûr que les autres, il va falloir qu'ils remettent un peu les tarifs.
Il était à combien le Havre? Parce que le Havre, il est bien fait aussi.
Ouais, le Havre, il est bien fait, à part pour lire les cartes et tout, mais.
Oui.
Pour lire le plateau. Mais à l'époque, il était à ce prix-là, maintenant, il doit être un peu baissé. Voilà, on parle des jeux que l'on va emmener en vacances, on peut très bien emmener. Son iPad et puis pouvoir jouer à deux en se passant l'iPad.
En l'occurrence, c'est une petite boîte et tu mets les cartes dans la boîte d'Augustus et puis toi.
Ah oui, la boîte d'Augustus, elle va justement servir à faire du transport parce que si elle meurt, c'est pas grave. Voilà. Et par contre, j'ai pas dit, il y a un tutoriel en anglais, mais il est pas terrible. Non, mais ils ont raté le tuto en plus. Enfin, on n'est pas du tout au niveau. Ben, ce que je dis, le jeu, il est un peu desservi. Il sort une semaine après Agricola, forcément, il va se faire un peu lyncher là-dessus. Mais pour autant, c'est quand même un portage qui est. Pour moi, de bonne facture. Hein. Il n'est pas aussi beau, il n'est pas machin, d'accord, mais c'est bien fait. Et le jeu a quand même un intérêt. Si vous l'avez déjà bien aimé, enfin, c'est peut-être parce que j'ai beaucoup joué il y a 10 ans. C'est-à-dire qu'il y a 10 ans, il n'y avait pas non plus un choix de jeu aussi important que maintenant.
Oui, mais c'est exactement ce que je dis. C'est, aujourd'hui, les jeux à deux qui sont intéressants, pour lesquels il faut que tu fasses du choix, qui durent moins longtemps que.
Il durait longtemps.
Que, t'en as quoi. Avec c'est ça le truc. Hein. Bref.
Mais ça change. Non, on n'a pas le droit de changer.
Est-ce que ça change de quoi? D'ascension? Oui, ça change d'ascension.
Non, mais il a sa façon. Enfin, oui. Non, en fait, il a. En fait, son défaut, c'est son rythme, effectivement. Son défaut, il est là, et c'est-à-dire que le rythme, c'est lent. On passe quand même les premiers tours, on patine un peu avant de démarrer.
Après, c'est le côté unique aussi d'Agricola. Pardon. Après, c'est le côté unique
de Catan.
Enfin, tu lances les dés. Tiens, j'ai de la pierre. Tu lances les dés. Tiens, j'ai de la pierre. Tu lances les dés. Tiens, j'ai de la pierre. Je fais quoi avec toute ma pierre?
Alors, c'est pour ça. Bah, oui. Bah, tu peux les échanger à 3 pour 1.
Super,
c'est un beau tour d'usure.
Et l'autre, il a.
Eh oui, mais c'est pour ça qu'il faut. Et du coup, il y a une variante qui existe pour les jeux de plateau, la version de jeu de cartes et tout, qui
est. On donne à chacun des ressources.
Non, mais tu lances plus le dé. Mais tu remplaces le dé par 12 cartes de valeur 1 à 6 que tu mélanges. Donc du coup, ça équilibre le, parce que tout va sortir. Et du coup, ça accélère le jeu parce qu'effectivement, tu perds pas des tours à juste stocker ta pierre, sachant qu'en plus, tu peux en avoir plus de 3, pour l'échanger tout ça, pour avoir une paille, puis tu rates en 3 tours de pierre, et puis tu re-machin.
Oui, tout à fait.
Donc, vraiment, c'est super important, par contre, de jouer avec ça. Et ça y est pas. C'est peut-être le truc qu'ils auraient dû mettre, mais comme c'est pas une variante officielle... Ah, c'est comme ça. Voilà, bon, donc les colons, enfin, Rivals for Catan, en anglais, qui correspond au prince de Catan, c'est à 3,49€ sur l'App Store. Il sort un an trop tard sans doute, mais si vous êtes fan, vous pouvez le prendre.
Désolé.
Ah, il sort minimum une semaine trop tard.
Ou minimum 10 ans.
Ou 10 ans. Non, 5 ans.
Ouais, bref. Donc voilà, bah, vous l'aurez compris, on est fan d'Agricola. Alors parce que
Olivier n'est pas fan de Catan.
C'est l'enjeu. Non. Non, je pense que...
J'avoue, les comptes Catan, je n'ai pas la boîte. Enfin, la version 4-5 joueurs, je ne l'ai pas en 6 mois.
C'est exactement ça. J'allais te dire, une ludothèque, ça vit. Je suis persuadé que tu n'as plus Catan dans ta ludothèque. Et en l'occurrence, ben, les jeux que tu as achetés sur ton iPad, il y a des jeux que tu vas pas, tu vas plus jouer, auxquels tu vas plus jouer parce que tu as trop joué ou parce qu'il est moins bon qu'un jeu que tu vas avoir... Après, il y a eu Nightfall, après il y a eu Ascension. Et je pense que Nightfall s'est pris une claque avec Ascension.
Ascension est sorti avant Nightfall, mais...
Ça rien. Ascension est un excellent jeu. Donc voilà, bon, bref, vous l'aurez compris. Il y a un temps pour tout, et là, en l'occurrence, c'est le temps d'Agricola. Il faut jouer à Agricola.
Je crois qu'ils l'ont compris.
C'est clair.
Entre tous les rappels qu'on a faits, c'est bon.
Et puis, pensez à nourrir votre iPad avant l'été. Parce que pour une vingtaine d'euros, pour le prix d'un jeu sur table, vous avez 3, 4, 5, 8 bons jeux sur l'iPad. Achetez des jeux, enfin, c'est pas grave. 6 euros, je veux dire, vous allez partir en vacances, vous allez faire je sais pas combien de milliers de kilomètres, vous avez payé une location, vous avez acheté un iPad. Et ben,
nous parler des jeux qu'on a. Voilà, moi, j'achète des jeux spécialement pour partir, pour les emmener en vacances. Et notamment, ben, j'en ai sur la tablette. Et
là, tu vois, j'ai regardé, j'avais Timeline. Je pense que les 2, 3, maintenant que les soucis sont passés, je vais acheter des extensions pour Timeline pour pouvoir jouer en vacances.
Timeline, ouais, c'est sympa à jouer. Moi, je joue dans le train, ça, c'est pas mal. Ouais.
Avec des enfants.
À côte dans le train, non, pas avec les enfants.
Voilà, donc je pense que tu vois, c'est le genre de truc. L'iPad, cette année, va nous permettre de prendre moins de jeux, en fait.
C'est la fin.
On va dire au revoir.
C'est la fin là, cette fois-ci, de la saison. Il n'y a plus rien.
Ouais, si, en fait, c'est assez.
Je prévois dans la semaine faire une petite interview. Je sais pas quand.
Non, mais je ne mettrai pas en ligne.
Ouais, c'est ça le problème. Je ne sais pas comment on fera.
Peut-être intégré au 46A.
En fait, le sujet, ça fait longtemps que je vais en parler.
C'est quoi?
C'est le jeu Pokémon, mais parce que c'est un jeu. Pour moi, c'est un bon jeu Pokémon. C'est un bon jeu de cartes à collectionner. Qui a vraiment des vraies qualités de jeu, pas tel que les gamins jouent.
Dans le 46A.
Eh ben, si tu veux, on le mettra. Mais je vais avoir 3 quarts d'heure. Hein.
Ok. D'accord. Bah, alors, écoute,
sinon, je le mettrai pas en 46. Bah, ouais, j'en sais rien, on verra. Je vais enregistrer ça demain soir. Et l'idée, c'est. Donc là, je recevrai quelqu'un qui joue et surtout qui présentera Pokémon, mais aussi le côté tournoi, championnat de France.
T'es en train de faire un podcast sans moi?
Bah, t'en as fait sans moi aussi, moi. Tu veux venir demain?
Non, parce que toi, tu voulais pas venir, tu pouvais pas venir. T'es en train de faire un podcast sans moi.
Attends, c'est un copain. Hein. Enfin, c'est un copain de copain. Mais...
Ouais, on sait ce que tu fais avec tes copains.
Ouais, c'est ça. Et il passe là sur Lyon cette semaine, c'est tout. Et
tu m'as invité?
Je vais le choper. Bah, c'est fait comme ça, j'ai appris hier et tout. Donc, je dis, est-ce que. Okay. Son fils est champion de France cette année. Il a gagné le championnat de France de Pokémon.
J'ai deux choses à vous annoncer. D'abord, peut-être qu'il n'y aura pas. de dossier Pokémon. Ensuite, je sais pas s'il y aura de saison 4.
Ah bah bien. Hein, ah bah on est bien parti.
Bon, bref, donc.
Bon, alors sinon, il y aura pas, voilà.
Alors, vous avez entendu le 46A, vous avez entendu certainement le dossier de Jérémy. Ensuite, le 46B, et après. On est déjà deuxième quinzaine.
Non, mais le dossier, tu mets après le 46B, on le met quand on veut dans l'été.
Tout ça pour dire que vous aurez quelque chose à vous mettre sous les oreilles.
Je te rappelle, on a dit on préfère tes billets. Hein. C'était mieux
ensuite,
que tu les faisais.
Ouais, c'est ça, ouais, il était très convaincant. Ensuite, le 15 août, on enregistre avec la Proxy Team. Les gens que vous allez entendre l'année prochaine.
Donc mi-septembre, c'est bon, ils seront en ligne.
Non. Ouais. Et après, normalement, une régularité. Une fois par mois. Voilà.
À peu près tous les 28 jours.
Ça, c'est. Il n'a pas beaucoup bu en plus, hein, c'est ça qui est.
Ah ben non, 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 il n'a pas besoin.
Donc voilà.
C'est bon. Super. Ouais, j'ai ruiné là, il sait même plus comment conclure lié.
Bon, non, bah écoutez, mais j'étais en train d'expliquer que on va encore mettre beaucoup de choses. Alors pour l'année prochaine, un crossover avec Podcast Science, on s'est dit qu'on le ferait. On parlait dans le 46A du problème du représentant de commerce, donc la distance la plus courte pour visiter un nombre le plus important possible de points. Bah c'est ce genre de choses dont on veut parler avec Podcast Science.
Reste à définir les modalités.
C'est ça.
Skype.
Et vous l'aurez compris, la saison 4, comme on l'appelle, parce que c'est une saison
4,
reste à définir les modalités. Donc voilà, donc on vous dit...
non, septembre.
On vous dit pas jouer bien encore, parce que mes conclusions sont interminables. On vous dit... Passez d'excellentes
vacances,
jouez beaucoup, jouez avec vos enfants, jouez avec vos voisins, jouez avec les Hollandaises de votre...
Et d'autres jeux.
Pardon ?
À d'autres jeux.
Ah mais j'ai pas précisé. En camping, jouez à des jeux à boire, profitez-en. Jouez dans toutes les activités possibles et imaginables. Pas sur la route, parce que c'est dangereux.
Mais si, on en parle, on dit qu'il y a des jeux qu'on peut faire en voiture. Réécoutez le dossier.
Mais ça dépend quelle voiture t'as, en fait. Les voitures où tu peux tourner le siège. Et puis, écoutez des podcasts. Écoutez les podcasts de FreePod. Il y en a plein. Il y a Les Peurs du Capitaine. Il y a BlaTG a baissé un petit peu. J'aime beaucoup Buzzingcast, mais s'ils font plus partie de FreePod, ben on les entend plus. C'est dommage. Mais il y en a plein. Donc Podcast Science, si vous intéressez un minima aux sciences, ben allez-y. Le blog de la cellule. Babozor, il y a plein de choses à vous mettre entre les oreilles cet été. Profitez du temps que vous avez, parce que de toute façon, il va pleuvoir. Donc vous pourrez écouter des podcasts et jouer aux jeux de société. Donc on vous dit... À bientôt en septembre. Et en attendant, jouez bien.